espagnol. Et vous vous souvenez que la dernière fois, avec le premier, la première séance, je vous ai dit qu'a priori, à moins que je ne change d'idée en route, je ne sais pas, mais nous abordons la question de la peinture espagnole de manière chronologique. La dernière fois, je vous le rappelle, nous avons travaillé sur la peinture espagnole, mais la peinture espagnole au Moyen-Âge, absolument. Il n'est pas dire que nous ne reviendrons pas, peut-être en fin de cycle d'ailleurs, sur ces questions-là, pour confirmer nos connaissances dans le domaine. Nous faisons ici œuvre de pédagogie. Aujourd'hui, on va donc passer une vitesse et aller un petit peu plus loin. Je vous repasse, mais vous les connaissez, nos petites règles internes. Et je vous propose que nous entrions dans le vif du sujet par un premier petit temps qui sera un temps d'observation d'une œuvre d'un artiste qui va nous occuper pas mal aujourd'hui. Et donc je vous passe tout de suite une œuvre que je voudrais que nous regardions d'un petit peu plus près. Je pense que vous avez une idée de l'auteur de l'œuvre en question. Le Greco. Hein, bien. Le Greco est un artiste du XVIe siècle, on va en reparler, et il est sans doute la figure majeure de la peinture en Espagne au XVIe siècle. Et pour rentrer un peu dans son œuvre, je pense qu'il était bon d'abord de commencer par regarder d'un peu près une œuvre, celle-ci. Alors qu'est-ce qu'elle vous inspire? D'abord, comme d'habitude, hein, une petite idée de la matérialité de l'œuvre. Par exemple, sa taille, qu'est-ce que vous imaginez? C'est très grand, hein, c'est très grand. Ça fait à peu près 4 mètres de haut. Hein. C'est là une œuvre importante. Et maintenant... qu'est-ce qu'il en est au niveau du sujet qui est le sien? Avant peut-être de voir comment il a été traité, qu'est-ce qui est représenté dans l'œuvre en question?
L'enterrement du comte de je ne sais quoi.
Voilà, c'est l'enterrement du comte d'Orgaz. Hein. Effectivement, ce tableau s'appelle l'enterrement, il montre l'enterrement du comte d'Orgaz. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est que l'enterrement du comte d'Orgaz? Parce que c'est en effet l'enterrement du comte d'Orgaz, mais qu'est-ce que c'est que l'enterrement du comte d'Orgaz? That is the question. Eso es la question. Que se passe-t-il dans le tableau en question?
Est-ce que c'est un tableau d'hôtel?
Non, il est dans une église à Tolède.
Oui. Alors, il est effectivement, c'est pas à proprement parler effectivement un tableau d'hôtel. C'est plus un tableau de. J'allais dire de dévotion, oui, et d'évocation de ce qui est montré là, c'est à l'enterrement du comte d'Orgaz.
Et d'une famille, alors?
Alors, peut-être.
Mais il y a deux niveaux. Ciel au-dessus.
Alors, il y a d'abord, effectivement, deux niveaux. Comme vous dites, il y a au-dessus le ciel,
et la terre.
Et en bas, quelque part, la terre, les humains. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe d'abord sur la terre? Commençons par le plancher des vaches. Hein. Bon, c'est effectivement un tableau coupé en deux parties. Hein.
Il y a un moine et il y a un...
Alors, il y a effectivement l'enterrement lui-même. Donc là, c'est le comte d'Orgaz, visiblement. Okay. On le met a priori dans son linceul, oui.
Il
y a un évêque.
Richement,
très richement.
Et peut-être un diacre en symétrie.
Peut-être un diacre en symétrie.
Et puis là, c'est un moine
à gauche.
Et, alors,
et un prêtre à droite.
Et il y en a encore un autre.
Et il y en a encore un autre à l'extrême droite.
Avec une étoile.
Et puis quoi d'autre?
Alors, et puis, la foule.
Des notables, mais que des hommes.
Non, il n'y a pas une femme.
Une femme, c'est...
Si, non, c'est un homme. Et un homme qui a un visage un peu...
féminin.
Oui, un peu féminin, mais c'est un homme.
Hein. Et en bas, à gauche...
Un enfant.
On a l'impression qu'ils sont deux pages, on pourrait dire. Hein. Donc, il y a effectivement, dans la partie inférieure, le tableau étant coupé en deux, hein, la partie inférieure terrestre, hein, avec au centre l'enterrement du comte d'Orgaz, c'est le nom du tableau, enterrement qui se fait avec deux personnages richement ornés, un diacre peut-être à gauche, une sorte d'évêque à droite. D'ailleurs, on trouve à gauche un moine et à droite deux prêtres, dont l'un avec des ornements très richement décorés. Et puis, une sorte de frise de personnages, des hommes exclusivement, hein, qui sont à l'arrière, à faire la composition. OK. Maintenant, la partie supérieure, qu'est-ce qui se passe?
On l'accueille au ciel,
ce serait le comte d'Orgaz qu'on enterre en bas, qu'on accueille en haut. Hein. Okay. Alors, où est-ce qu'il est le comte d'Orgaz en haut? Est-ce qu'on l'accueille? Donc c'est ça, le conte d'Orgaz que l'on accueille. Hein, il est nu comme un ver, parce que l'âme à mort est forcément nue et pure. Hein. Donc il monte au ciel. Il est accueilli par qui au ciel ?
La Vierge.
Saint-Pierre.
Et le Christ.
Alors il y a Saint-Pierre, effectivement, on voit là Saint-Pierre. Vous le voyez, parce qu'il a un porte-clés avec deux clés. Hein. Une clé en or, une clé en argent. Hein. Le paradis, c'est comme ça. Donc il y a Saint-Pierre avec deux clés.
Au moins, en haut, un ange, le Christ.
C'est le Christ, oui, c'est le Christ hein, qui accueille et puis, ce personnage.
La foule
des bienheureux, hein, il y en a pas mal là, mais surtout beaucoup à droite, qui accueille le comte d'Orgaz au ciel.
Mais c'est ça,
ouais.
Oui.
Il y a un ange là, effectivement.
Moi, je le trouve un peu dévêtu pour.
L'ange ?
Non,
le
personnage.
Ah, donc ce serait un peu bizarre, ce serait une âme un petit peu trop nue. Hein, un peu trop nue pour être honnête.
Pour être comte d'Orgaz, surtout.
Ouais, pour être le comte d'Orgaz.
Ah oui,
d'ailleurs, qui c'est ce comte d'Orgaz ? D'abord, Orgaz, c'est quoi ? Le comte d'Orgaz. El conde de Orgaz.
Bah, c'est quoi ? Un noble.
Alors, c'est un noble, mais s'il est comte d'Orgaz, c'est qu'il y a un lieu qui s'appelle Orgaz.
Oui,
c'est quoi, Orgaz ? Oui, un lieu. Ça se trouverait où, peut-être ?
Près de Tolède.
Près de Tolède. Hein. C'est effectivement une ville qui est proche de Tolède. Hein. Donc, le comte d'Orgaz, c'est ce seigneur d'une cité qui est à côté de Tolède. Hein. Ce comte d'Orgaz, il a vécu quand ?
C'est un contemporain.
C'est un contemporain de Gréco. Et autrement dit, Gréco montre un événement contemporain. Gréco ayant vécu au XVIe siècle, c'est un événement contemporain que Gréco nous propose.
Est-ce que les costumes peuvent nous aider ?
Ah, alors justement, qu'est-ce que vous pensez des costumes, effectivement ?
Je
colorais, c'est le costume.
Je m'échauffe, alors j'enlève une émission.
À quelle époque, justement ?
Au 16e.
Voilà, donc ce serait, puisque ce tableau a été peint au 16e siècle et que Gréco est un artiste du 16e siècle, on aurait là des personnages du 16e siècle hein, qui assistent à un enterrement d'un de leurs contemporains du 16e siècle. C'est ça l'idée ? C'est possible ? Ça veut dire, je sens derrière ce « c'est possible », qu'il y aurait peut-être une autre solution. Quelle pourrait-elle être si ce n'était pas ça ? Si ce n'était pas un événement contemporain que Gréco montre, l'enterrement du comte d'Orgaz qui a vécu au XVIe siècle, il est mort au XVIe siècle, Gréco fait la photo, enfin la peinture, qui évoque l'événement. Bon, ça c'est une possibilité. Mais vous dites justement « c'est une possibilité », c'est-à-dire qu'il y en a peut-être une autre. Donc si ce n'est pas cette possibilité, ce serait quelle autre possibilité ? Donc, une peinture rétrospective. Hein. Autrement dit, cet enterrement ne serait pas un enterrement contemporain.
Oui, mais...
Donc, c'est un enterrement qui serait peut-être ancien. Donc, ce personnage, le comte d'Orgaz, serait peut-être un personnage plus ancien, et la peinture serait rétrospective. Alors, que dire de ces personnages ? Eux, c'est des personnages que vous situez comment, chronologiquement, dans le temps ? Si vous référez à l'histoire de la peinture en général... Hein. Pensez par exemple à des... Pardon ? Voilà, alors par exemple, si vous pensez à la peinture flamande, hein. Pensez à des quantités de tableaux flamands. Pardon ? Voilà, par exemple, un siècle avant, hein, au 15e siècle, hein, où vous avez, je crois, des crucifixions, des mises au tombeau, etc., ou des scènes de la vie de certains saints. Hein. Pensez à ces tableaux-là et essayez de mettre ça en rapport avec ça. Qu'est-ce que ça peut vous dire ? Quel est le statut de ces figures-là, autrement dit ? Si vous pensez à l'histoire de la peinture en Europe, par exemple la peinture flamande ou hollandaise, des 14e, 15e siècles, hein, représentant les scènes de la vie du Christ ou la vie de saint, si vous réfléchissez à certaines choses, ces personnages-là, derrière, qui assistent à cet enterrement dont vous dites que c'est peut-être un enterrement introspectif, c'est peut-être pas un enterrement qui a lieu au 16e siècle, c'est peut-être un enterrement peint au 16e siècle, mais un enterrement qui aurait lieu bien avant. Donc la célébration d'un événement beaucoup plus ancien. Après tout, quand au XVe siècle, Van Eyck représente la crucifixion, Van Eyck n'a pas assisté à la crucifixion. On est d'accord. Donc il représente un événement bien antérieur. C'est peut-être la même chose ici. Qu'est-ce que vous dites que ce n'est pas le même cas ? Peut-être que le Gréco a montré ici un événement qui s'est passé bien avant.
Alors, est-ce que ce serait un tableau en vue d'une canonisation ?
Oui,
alors,
parce qu'il y a un...
Ou d'une béatification.
Oui, mais alors quel serait décidément le statut de ces personnages-là ?
Un groupe de commanditaires.
Voilà. C'est ça. C'est certainement un groupe de commanditaires. Rappelez-vous la peinture ancienne. Pensez à la peinture flamande du XVe siècle, par exemple, souvent. on voit un personnage agenouillé, quelquefois deux, quelquefois davantage, qui sont les gens qui ont, on les appelle les donateurs, hein, les gens qui ont commandé le tableau, qui ont, en gros, qui ont payé le peintre et qui se font représenter. C'est pas tout de payer le peintre, encore faut-il être représenté. Hein.
Une confrérie pieuse.
Voilà. Alors voilà, les personnages que vous avez là sont les membres d'une sorte de confrérie de la ville de... Alors, Orga, c'est, voilà, plutôt de Tolède. Orga, c'est quand même pas très grand. C'est plutôt, effectivement, un certain nombre de personnages, de notables, vous disiez le nom tout à l'heure, hein, de la ville de Tolède, qui se sont réunis, si vous voulez, pour commander à Gréco un tableau, tableau qui représente l'enterrement du comte d'Orgaz, qui, effectivement, ne date pas du tout, ce comte d'Orgaz, du XVIe siècle. Le comte d'Orgaz, il a vécu au XIVe siècle. Donc ce que vous avez là n'est pas du tout la représentation d'un événement contemporain, c'est la façon d'une représentation d'un événement plus ancien de deux siècles qui représente l'enterrement du comte d'Orgaz. Mais ces notables-là ont voulu figurer, ont voulu, si vous voulez, célébrer l'enterrement du comte d'Orgaz. Ils en ont donc commandé la peinture à Gréco. Et puisqu'ils ont commandé la peinture, ils ont donné de l'argent d'un tableau assez grand et assez cher. Hein, bah, ils tenaient à être représentés. Ça se fait. C'est vraiment le normal dans la peinture du temps.
Hein. Ce sont quasiment des portraits
voilà.
Individualisés.
C'est ça. Vous avez là finalement toute une série de portraits. D'ailleurs, Gréco a quelquefois, vous voyez tout à l'heure, le portrait de ce personnage-là, par exemple, individuel. Hein. Gréco, quelquefois, a peint des portraits individuels de ces personnages. Vous avez donc là une série de portraits de personnages bien vivants à l'époque de Gréco et qui assistent à une scène qu'ils n'ont jamais vue. Mais tout comme quand, encore une fois, dans un tableau de Van Eyck, vous voyez monsieur et madame Machin agenouillés devant la croix du Christ, ils n'ont jamais assisté à la crucifixion. Ça veut dire qu'ils sont donateurs. Ben là, c'est pareil. D'accord ? C'est la même chose. Autrement dit, ça, c'est des personnages de l'époque de Gréco, contemporains, alors que ça, c'est une scène qui n'est pas du tout contemporaine. Hein. Par parenthèse, ces deux personnages-là, qui enterre notre comte d'Orgaz. Maintenant, on sait que lui ne date pas du XVIe et du XIVe siècle. Ces personnages, ça veut dire qu'il y a toute chance qu'eux aussi ne datent pas du tout du XVIe.
C'est pas un saint,
des saints. Ah, est-ce que ce serait pas des saints ?
L'évêque, la saint.
Il vous ferait penser à qui cet évêque ? Un personnage qui est souvent présenté dans la peinture ancienne comme ça. Un évêque très très bien habillé, vraiment.
Saint-Nicolas.
Ça pourrait, mais c'est pas lui.
En Italie, ce serait Saint-Nicolas.
Ouais. Ça pourrait, c'est une des possibilités. Ça pourrait, mais c'est pas. Alors souvent, il est présenté effectivement comme ça. Il peut être aussi en ermite. Hein. Mais là, il serait plutôt en cardinal, de toute façon, Saint-Géron, effectivement. Hein. Et puis souvent en ermite. Quelqu'un qui est représenté en évêque, un personnage qui a eu un rôle très important dans l'Église.
Auguste.
Ouais. Saint-Augustin.
Ah oui,
Saint-Augustin. Un évêque d'Hippon.
Qu'est-ce qu'il y a à faire en Espagne ?
Alors là, en fait, c'est le personnage que vous avez là, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est, avec Saint-Jérôme, justement, un des quatre pères de l'Église. Hein.
Oui.
Pas n'importe qui, Saint-Augustin. Hein. Donc là, c'est Saint-Augustin. Est-ce que vous pouvez avoir une idée ? Il n'y a rien qui permette vraiment de le reconnaître. Hein, mais, enfin, sauf qu'il est souvent représenté comme ça en diacre, avec une dalmatique. Ce personnage que vous avez là, qui n'est pas plus du XVIe siècle que Saint-Augustin. Est-ce que vous avez une petite idée de qui ça pourrait être ? Difficile. Hein. Oui, absolument. Bravo. C'est Saint-Étienne. Hein, Saint-Étienne est très souvent représenté en diacre. Alors souvent, il est représenté avec une pierre.
Mais c'est le premier diacre.
Voilà, c'est le premier diacre. Saint-Étienne, il a été, vous savez, lapidé. Donc il est souvent représenté avec une pierre, très souvent habillé en diacre. C'est le premier diacre. Il est ici habillé précisément en diacre. C'est donc Saint-Étienne et Saint-Augustin qui enterrent le comte d'Orgaz. Ça, c'est une drôle de chose. Hein. D'ailleurs, Saint-Étienne et Saint-Augustin...
C'est un peu anachronique.
Voilà, c'est un peu anachronique par rapport au comte d'Orgaz, déjà. Parce que le comte d'Orgaz, c'est le XIVe siècle, alors que Saint-Augustin, c'est un personnage de la fin de l'Antiquité. Hein. Donc, et Saint-Étienne aussi, de toute façon. Donc, tout ça ne colle pas très, très bien. Hein.
En fait, ça ressemble à une béatification.
Alors... Oui, ça pourrait ressembler à une sorte de scène de béatification. Oui. D'ailleurs, les saints en question, Saint-Étienne et Saint-Augustin, ils viennent d'où, à votre avis ? Regardez le tableau, ils viennent d'où ?
Du
ciel. Ils sont descendus du ciel sur terre pour enterrer le comte d'Orgaz. Ça ne se passe pas tous les jours, vous voyez. À vrai dire, c'est même un peu miraculeux. Ce que vous avez là, ce à quoi vous assistez, c'est un miracle. Parce que, je vous l'apprends, au XIVe siècle, il y a eu à Orgaz, à côté de Tolède, un miracle. Le maire de la ville d'Orgaz, hein, qui était le comte d'Orgaz, hein, était un personnage extrêmement pieux, exemplaire, hein, qui donnait de l'argent pour construire des églises, qui donnait de l'argent pour les œuvres de miséricorde. Enfin, il était parfait. Hein. C'est un personnage plus ou moins légendaire. Enfin, ça, c'est pas le problème. Et quand il est mort, une légende dit que Saint-Augustin et Saint-Étienne sont descendus du ciel pour l'enterrer. C'est ce qui est présenté là. Il y avait quelqu'un d'autre, d'ailleurs, pour assister au miracle.
Saint-François.
Hein. C'est celui qui a reçu les stigmates. Hein. Saint-François que vous avez à droite qui assiste à la scène. Hein. Et donc, vous avez effectivement là en bas une sorte de conjonction d'éléments tout à fait contemporains du Gréco, les donateurs, avec les prêtres qui sont là, et puis des éléments qui, eux, datent du période plus ancienne, de ce miracle du XIVe, que vous voyez au premier plan. Et alors là, c'est quoi ça? Vous en avez parlé.
Fils. C'est pas le fils?
Eh bien si. Mais pas le fils du comte d'Orgaz. En fait, chose assez amusante, le petit garçon que vous avez là au premier plan, qui est là un peu pour faire le passage entre nous... Pardon?
Du peintre?
C'est le fils du peintre.
Ah oui.
Le personnage que vous avez là. Vous voyez ce petit garçon qui est là, hein. C'est, grosso modo, le seul à nous regarder.
Hein. Oui.
Si vous voulez, il est un peu le passeur entre vous et la peinture. Hein. Celui qui fait qu'on n'est pas extérieur, puisqu'il y a quelqu'un qui nous prend en témoin. Ça arrive souvent dans la peinture ancienne. Vous avez des tableaux, puis vous avez un personnage qui regarde. C'est une manière de vous intégrer à l'œuvre. Que vous ne soyez pas simplement des regardeurs. Hein. Vous entrez dedans, vous êtes pris à témoin, en quelque sorte. Autrement, ça n'est pas le cas. Et là, il se trouve qu'il l'a fait à plusieurs reprises. A priori, le personnage qui est là est le fils de Gréco, il s'appelle Jorge Manuel, qui est donc un fils du Gréco, et qu'il a mis là pour être une espèce de passeur, si vous voulez, bien contemporain, entre la peinture et là. Bien, donc on a vu ce qui se passait en bas. On a vu ce qui se passait en haut, mais j'ai entendu un petit tic tout à l'heure. Hein. Ce personnage nu, un peu trop nu pour être l'âme du comte d'Orgaz.
Il est immense.
Il est assez grand, effectivement.
C'est pas Adam.
Ah, alors ça pourrait être, non pas effectivement l'âme du comte d'Orgaz, mais peut-être quelqu'un comme Adam. C'est une possibilité. Mais c'est pas la seule.
Saint Jean
lequel?
Baptiste.
Effectivement, c'est Saint Jean-Baptiste. Ah. Le personnage que vous avez vu là n'est pas l'âme du comte d'Orgaz, pas non plus Adam, ce qui serait pensable, hein, nu comme ça. Mais c'est Saint-Jean-Baptiste, qui est bien nu aussi.
Et
qui est habillé d'une peau, vous savez, de chameau, nous dit-on. Hein. Et c'est donc ce que vous voyez là qui lui sert de périsonium, pourrait-on dire. Hein. En fait, Saint-Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait là?
Passage d'un testament à l'autre.
En quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est celui qui plaide. Il plaide quoi? Pardon?
C'est l'intercesseur.
C'est ça, c'est l'intercesseur. Exactement. C'est celui qui plaide auprès du Christ et de la Vierge. La Vierge a l'air assez convaincue. Hein. L'arrivée de l'âme du comte d'Orgaz au ciel. Elle est où, cette âme? Le comte d'Orgaz, il est mort en bas, d'accord. Mais son âme...
À côté, derrière,
une petite chose.
Oui. À côté de... Ça. Oh, ça, c'est un petit ange, comme vous en avez d'autres.
Au pied de la Vierge.
Au pied de la Vierge, qu'est-ce qu'il y a au pied de la Vierge?
Un ange.
Un ange, oui. Et cet ange brûlé. Cet ange au pied de la Vierge.
Il porte l'âme.
Ah, c'est alors c'est l'ange gardien.
Là, vous voyez, vous voyez un nouveau-né, un nourrisson, un bébé, l'angé avec sa tête, c'est l'âme du comte d'Orgaz. Ça. Ça aussi, c'est une représentation très fréquente hein, dans la peinture ancienne. Au Moyen-Âge, c'est très joyeux ça. Hein. Quand on monte des âmes qui montent au ciel, c'est les bébés hein, qui montent au ciel. C'est l'âme des morts. Voilà. Donc effectivement, en haut, vous avez le paradis avec Saint Jean-Baptiste qui plaide auprès de la Vierge, très convaincue du Christ, l'arrivée de l'âme du comte d'Orgaz au paradis. Voilà. Nous avons donc décrypté ce que représentait le tableau en question. La célébration d'un miracle qui a eu lieu près de Tolède au XIVe siècle. Un miracle plus ou moins légendaire, mais bon, il croit qu'il veut. En termes maintenant pourrait-on dire, de stylistique, pour employer un grand mot. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur la manière dont Greco a réalisé cette œuvre ? On a vu ce qu'elle représentait. Maintenant, de quelle manière le fait-il ? Quels sont les outils, on va dire, artistiques qu'il déploie pour représenter ça ? Alors effectivement, il y a des contrastes, hein, et notamment des contrastes très très forts entre la série des donateurs en noir, hein, mais c'est la mode du temps aussi. Hein. Vous savez, à Tolède, au XVIe siècle, on rigole pas. Hein, il n'y a pas intérêt à se présenter dans les rues avec des robes roses et des petits froufrous. Hein. C'est pour les hommes, costume noir et fraise blanche. Et c'est réglé. Hein.
En haut, c'est assez baroque.
En haut, alors, oui, on pourrait dire ça en mettant peut-être des guillemets à baroque, parce qu'évidemment, hein, le baroque va arriver plus tard. Hein, mais on va dire peut-être que c'est... Voilà, il y a du mouvement. C'est effectivement très, très mouvementé. Donc, il y a en partie une et en partie haute, et ça contraste avec la partie basse. Hein. Enfin, la partie basse, c'est des personnages debout les uns côté des autres, une sorte de forêt de colonnes. Hein. Alors, dans la partie haute, ça bouge. Hein. C'est du baroque avant la lettre. Hein. Voilà, c'est frémissant. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, c'est frémissant, moi, je trouve aussi bien au niveau des personnages qui grouillent, hein, mais aussi de la manière dont c'est peint. On a l'impression que les nuages, hein, on a l'impression d'un... Effectivement, les nuages, c'est comme des grands draps. On a l'impression, vous savez, comme dans un décor de théâtre où on agite des draps pour faire croire que c'est la mer, hein, ou puis le c'est, ciel.
Ces tout petits personnages, là, qui sont de chaque côté au-dessus, sous les grands nuages. Là.
Oui, ça, par exemple.
Oui.
Ça.
Ça, et puis en dessous, un peu en dessous, là, les deux petits.
Ça.
Non,
mais ça sont des flammes, parce que on est la nuit, hein, et vous voyez que ici il y a des flambeaux, et ça ce sont les flammes des flambeaux, d'accord ? Ce sont des torches. Hein, donc là vraiment on est sur terre, on pourrait couper le tableau en deux. Hein. Donc ça c'est des torches, parce qu'il faut quand même voir clair quand on met le Dorcas en tête, terre. Vous disiez aussi quelque chose à propos de cette figure-là tout à l'heure, quelqu'un d'entre vous.
Et donc de Saint-Jean-Baptiste, vous
êtes... La figure de Saint-Jean-Baptiste, oui, qu'est-ce
il est
que...
très allongé.
Très allongé. Hein. Hein, ça, c'est une chose assez remarquable. Hein. Il y a, et c'est notamment assez visible, Saint-Jean-Baptiste, une sorte d'allongement, d'étirement. Hein. En clair, il y a quand même une manière de représenter les corps qui n'est pas forcément... super réaliste, si vous voulez. Hein. Effectivement, là, on a l'impression des personnages qui sont...
Et c'est sur toile ou pas ?
Le Christ n'est pas le plus
grand. Eh bien, je ne sais plus. Je crois que c'est sur bois, mais j'en suis pas sûr. On va vérifier. Pardon ?
Le Christ n'est pas le plus grand personnage. Il est
non.
Le plus petit.
Non, effectivement. Il est vrai qu'il est un peu dans la perspective, mais vous avez raison. Il n'est pas forcément celui qui tient le pavé, en quelque sorte. C'est vrai.
Et pourquoi est-ce que Christ n'est pas Dieu ?
Dieu le Père.
Ça, un seul Dieu en trois personnes, après tout.
Oui,
il n'y en a qu'une. Oui, oh, ben, il compte pour les trois autres, pour les deux autres. On va dire ça, là, je ne saurais pas vous dire. Hein. Ça, c'est une volonté iconographique du peintre, je suppose. Hein. Sur toile. Voilà. Voilà. Donc, voilà cette œuvre hein, de Le Greco. Donc, vous savez que Le Greco, en fait, s'appelle Dominikos. Theotokopoulos, hein. C'est un peintre originaire de Candie. Candie, c'est où ?
En Crète.
En Crète. Hein. Ça s'appelle comment aujourd'hui ?
Héraklion.
Hein. C'est la capitale, entre guillemets, de la Crète. Hein. Enfin, qui n'est pas un pays, mais qui est la ville principale. Pardon ? Candie ?
Héraklion.
Ah, Héraklion. Ah bon.
Héraklion,
oui. Voilà. Et donc, est-ce qu'en deux mots... nous découvrons hein, que Greco a vécu, enfin, est né en Crète, à peu près au milieu, n'est-ce pas, du XVIe siècle. Il est mort donc en Espagne, à Tolède, en 1614. Vous savez un peu en deux mots quel a été son parcours ou pas du tout ?
Il a commencé, en Crète. Comme
ouais.
Et il peignait des icônes, je crois.
Ouais. Et puis après, donc, en Espagne. Bien. Parfait. Bon, écoute, voilà en tout cas déjà une première œuvre qui nous a un peu dérouillé les yeux. Alors je vous propose que nous allions dans un deuxième temps pour regarder un peu des sujets. Hein. Vous savez que quand on regarde les œuvres d'art, il faut à la fois comprendre ce que ça représente, mais aussi voir de la manière dont c'est fait. Ben, je vous propose que dans ce deuxième temps, on regarde plusieurs tableaux du Greco et qu'on essaie de voir ce que ça représente. Quelquefois c'est facile, quelquefois peut-être plus dur, on le voit. En tout cas, regardons-les. Je crois que j'ai mis des tableaux les uns derrière les autres. Je vous les montre une fois déjà. Oh. Et après...
Ils sont dans l'ordre chronologique ou pas ?
Là, ils sont présentés dans l'ordre chronologique.
La femme, c'était tout.
C'est-à-dire que là, alors je vous les remonte, puis après on va les revoir un à un pour... Mais j'aime bien vous les montrer une première fois pour que vous sachiez à quelle sauce vous serez mangé. Des choses faciles, hein.
Il y a un intrus ?
Non. Non, non. J'ai préféré commencer de manière soft. Et donc là, pour l'instant, il n'y a que des œuvres de lui. Tout à l'heure, il y aura quelques pièges, mais pas tout de suite.
C'est pas
la Madeleine. Oui, vous vous méfiez, oui. Non, non, là, je pense, on rentre des vacances de Noël, tout ça, il faut être quand même un peu cool. Hein. Alors, Marie-Madeleine, vous avez raison, vous avez effectivement là une. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais un tableau. Mais attendez, ce que je crois que. Attendez, je fais ça, mais je vous les remonte comme ça, parce que. Voilà. Donc, Marie-Madeleine, hein. À quoi vous reconnaissez que c'est Marie-Madeleine ?
Le dénudé.
Alors, le côté dénudé, effectivement, pourquoi dire elle est dénudée, Marie-Madeleine ?
Parce que
elle
est habillée avec ses cheveux.
Oui, oui, c'est vrai, c'est largement ses cheveux, hein, absolument. Oh, il y avait bien deux, trois petits bouts de tissu quand même pour couvrir sa nudité, mais enfin, pas grand-chose, le moins possible de toute façon. Hein. C'est une ermite. Hein.
On voit la grotte.
On voit la grotte, oui. Hein. Et alors, au-delà de la nudité, des cheveux souvent longs qui la couvrent.
Le crâne,
la vanité. Et puis la Bible quand même. Hein. Bon. Ce qu'il faut.
Il a fait des doigts très longs.
Oui, alors, effectivement, d'ailleurs, on pourra éventuellement en parler tout à l'heure, mais effectivement, des doigts très longs, mais l'élongation, on a vu que c'était un leitmotiv du peintre. Hein.
Mais là aussi, donc, ça fait penser au maniériste, alors que c'est bien avant.
Alors, ça fait penser à ce qu'on appelle effectivement le maniérisme. On aura peut-être à réutiliser ce mot tout à l'heure. Hein. Mais gardons dans le coin de la tête ce mot de maniérisme, effectivement. Hein. Bien, donc une simple laine pénitente. Pas de problème, pas très compliqué.
Un roi.
Et son fils. Un roi.
Et son fils. Et un petit prince, non ?
Un roi et un petit prince ?
Ou alors un valet.
Alors, au roi, ça, on est tous d'accord. Mais quel roi ?
Philippe.
Un roi
d'Espagne. Ah non,
et pourquoi on a... Oh, les rois, c'est un roi. Un roi
d'Espagne.
Un roi d'Espagne. Alors, lequel ? Une petite idée du roi d'Espagne qui est représenté ici.
Philippe.
Pardon.
On dit Philippe.
Philippe. Après, il faut le numéro. Donc, on aurait un Felipe, mais lequel ? Philippe II, hein, qui est roi, effectivement, d'Espagne au XVIe siècle. Hein.
Sur le terrain, Philippe II, c'est beaucoup plus tard.
Ah, mais Philippe II, il a été roi au XVIe siècle. Hein.
Sur lequel, 1500.
Oui, mais bon...
Donc ça pourrait être Philippe II.
Ah,
c'est
Philippe
pas
lui.
Non,
ouais. Je sais pas, moi. Charles Quint ?
Non.
Non, pas Charles
Quint. Non.
C'est moins triste. Hein.
Donc un roi d'Espagne, peut-être un Philippe, peut-être Philippe II ?
Oui, tout
le monde. Êtes-vous si sûr ?
Que ce soit un roi d'Espagne, ce n'est pas mal.
Alors que ce soit un roi, oui,
mais pas d'Espagne.
D'Espagne.
Ah !
Il y a quand même un gros indice.
La fleur de lys.
De France.
La fleur de lys.
De France.
Alors c'est François Ier.
Un roi français.
Un roi de France.
Ils sont bas.
Non, mais ce n'est pas François
Ier. C'est en même temps Charles Quint. Alors c'est pas François Ier.
Pas François Ier.
Après lui.
Alors,
quel roi de France ?
Ah,
n'est pas content. Oh, mais il est un petit peu sérieux. À votre avis,
C'est un portrait qu'a fait Gréco. En gros, un roi de France a demandé à Gréco de faire son portrait.
Oh bah non, mais c'est à l'intérieur. Non. C'est un détail, peut-être.
Ah non, c'est complet. Non, c'est une... Oh, je n'allais pas couper un tableau.
Oh, okay. Alors là.
J'en ai fait d'autres. Ok.
Ce tableau
aurait
donc été commandé
pour
le roi d'Espagne.
Ah non.
Donc ce serait un tableau commandé par un roi d'Espagne pour représenter un roi de France ?
Non, mais non. Ça aurait pu être François Ier quand il avait été prisonnier de Jérusalem. Non.
Le tableau de François Ier quand il a été... Un portrait de François Ier quand il a été prisonnier de Charles Quint. Après... Pourquoi pas, oui. Alors, effectivement, ce tableau peut représenter un roi contemporain. Mais est-ce la seule solution ?
C'est Saint-Louis.
C'est vrai. SOS. C'est Saint-Louis.
Qu'est-ce qu'il fait là ?
Pourquoi serait-ce le portrait d'un roi contemporain ? L'enterrement du comte d'Orgaz ne représentait pas un épisode contemporain. Donc là, ce n'est pas forcément un roi contemporain. Saint-Louis n'est pas contemporain, hein. Et bien, le personnage que vous avez là, c'est Saint-Louis. Saint-Louis, représenté avec un page.
Sa mère était blanche de Castille.
Et oui, il y a quand même une petite... Et puis Saint-Louis, vous savez, est très populaire hors de France. Hein. Donc, c'est Saint-Louis. D'ailleurs, ce tableau, il est où ?
Paris.
Oui. Voilà. Donc la présentation de Saint-Louis, roi de France, par le Gréco. Bien.
Et pas en Espagne, naturellement.
Pas en Espagne.
Ça, c'est Saint-Martin.
Oui. Alors, vous connaissez l'histoire, hein ?
C'est le coup du manteau.
C'est le coup du manteau. Mais c'est quoi, le coup du manteau ?
Il a donné la moitié.
Et pourquoi pas le manteau complet ? Voilà, parce que la moitié du manteau appartenait à l'armée. Hein, Saint-Martin était un soldat de l'armée romaine. Son uniforme avait été partiellement payé par lui, partiellement par l'armée. C'était, à cette époque, la règle. Donc il a donné à Saint-Martin la partie du manteau lui appartenant à lui, qu'il a donc pu donner, mais il a gardé la partie du manteau qui appartenait à l'armée, qu'il ne pouvait pas donner. Ça s'est passé où ?
Tours.
Non. Non, c'est à... J'ai entendu. À Amiens. Hein. C'est à Amiens, effectivement. Hein. Saint-Martin était célèbre parce que c'est à Tours que se trouvait la fameuse... le fameux sanctuaire dédié à Saint-Martin, Saint-Martin de Tours, mais c'est à Amiens que cet épisode s'est passé. Hein. Voilà. Donc effectivement, ça montre Saint-Martin, un tableau fameux du grec. Hein. Ok ?
Saint-François.
Saint-François. Qu'est-ce qui lui arrive ?
Les stigmates.
Il reçoit les stigmates. Hein. Vous savez, c'est le moment où Saint-François hein, reçoit sur son corps... Les stigmates du Christ, vous voyez que déjà dans sa main droite, hein, il y a déjà une première trace de clou. Hein. Donc Saint-Martin a été comme ça dans une sorte d'extase stigmatisée. Saint-François, pardon. Et c'est l'épisode que vous voyez là, Saint-François recevant les stigmates. Oui, c'est étonnant quand même. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est ce qui est stupéfiant, c'est chez cet artiste quand même. Hein. Ah oui, c'est étonnant. Vous êtes là devant un tableau de l'extrême fin du XVIe siècle, hein, et on est quand même stupéfait. Quoi. C'est vraiment étonnant. Qui en est-ce ?
Saint quelque chose.
Ah. Bon début.
Ah, mais alors, il y a quand même le portrait de la Vierge. Alors, est-ce que ce serait Saint-Luc ?
Vous avez raison, mesdames, c'est Saint-Luc. Vous savez qu'il est dit que Saint-Luc aurait fait le portrait de la Vierge. Et donc là, vous avez un saint qui présente un portrait de Vierge. Il a dans sa main droite une sorte de baguette, pinceau ou crayon, hein, montrant qu'il est l'artiste, l'auteur. Hein. C'est Saint-Luc. C'est peut-être d'ailleurs encore plus que lui. Peut-être. C'est peut-être le peintre lui-même. Peut-être. C'est pas sûr. Hein. Certains historiens là ont avancé le fait que le personnage représenté ici était en fait un autoportrait du Gréco. Ça s'est arrivé parfois, semble-t-il, que des peintres se représentent eux-mêmes, s'auto-portraiture en Saint-Luc, puisque Saint-Luc, c'est le patron des peintres. Hein. Quelquefois, les peintres se portraituent en Saint-Luc. C'est possible, c'est pas sûr. Hein. C'est une hypothèse qui, pour l'instant, n'est pas vérifiée. Hein.
Mais alors, la couleur verte.
Vert.
Oui, vert jaune.
Hein. Étonnant, hein. Salut.
Oh non. c'est le Christ au Jardin des Oliviers.
Exact. L'épisode du Christ au Jardin des Oliviers. Vous me rappelez.
Alors, les apôtres qui dorment.
Voilà. Les apôtres sont endormis au premier plan.
Et là, l'ange, le Christ, et l'ange qui lui présente un calice.
Voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe encore?
Ben, au fond, il y a la troupe qui arrive pour arrêter.
Les soldats arrivent pour arrêter le Christ. Vous savez qu'avant tout le déroulement de la Passion, hein, le Christ va au-dessus de Jérusalem dans le Jardin des Oliviers pour se recueillir, dira-t-on, une dernière fois et être en lien avec son Père. Hein. Les apôtres qui commencent à trouver que c'est un peu long, c'est la nuit, ils s'endorment. Un ange vient visiter le Christ et lui présente effectivement le calice, comme pour annoncer la suite des événements. Et là, vous voyez effectivement les soldats, avec qui d'ailleurs ?
Alors, Judas. Hein,
les soldats avec Judas qui viennent arrêter le Christ. Donc, c'est effectivement l'épisode qui est ici représenté, l'épisode du Christ au Jardin des Oliviers. Oula !
Je sais. Et la ville, c'est Tolède ?
Dans le fond, la ville représentée est assez vraisemblablement Tolède, effectivement.
Mais qu'est-ce qui tient, lui ?
Des serpents.
Ah, je sais.
Laocoon. C'est quoi, ce genre de Laocoon ?
Mais c'est païen.
C'est, oui. C'est une histoire païenne. Parce que jusqu'à maintenant, tous les tableaux de Gréco qu'on a vus se caractérisaient au niveau du sujet par quoi ?
Tous
sujet religieux. Hein. Pourquoi d'ailleurs ? Alors, il n'est pas moine, hein. Il était d'ailleurs marié, avec des enfants. Non ? Pardon ? Voilà, on est dans l'Espagne du XVIe siècle. Hein. L'Espagne du XVIe siècle est extrêmement marquée par la religion catholique, bien sûr. Et donc. Une ville comme Tolède, hein, qui est vraiment au centre même de l'Espagne, est une ville évidemment où l'importance de la religion est tout à fait considérable. Donc un peintre comme Gréco et les autres peintres du temps sont des peintres, sinon exclusivement, du moins largement voués à la représentation de thématiques religieuses catholiques, bien sûr. Hein. Là, on est devant autre chose. C'est effectivement l'histoire de Laocoon. Et ça, c'est pas une histoire religieuse. Catholique, enfin, on est dans un autre thème. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Laocoon ?
Il y a le fameux groupe au Vatican.
Il y a effectivement un groupe au Vatican qui représente Laocoon. Ouais. Je vous la montrerai. Et quelle est cette histoire ? Vous connaissez l'histoire de Laocoon ?
Je l'ai connue.
Vous l'avez connue ? Qu'est-ce qui se passe ?
Un homme et ses enfants attaqués par des serpents ?
Oui. Un homme et ses deux enfants, cela regarde la scène. Hein. Un homme et ses enfants attaqués par des serpents. Et ses deux enfants attaqués par des serpents. Pourquoi ? Ça se passe où ? Alors là, ça se passe sans doute à Tolède, parce que c'est effectivement Tolède que l'on croit, n'est-ce pas ? Voir dans le fond. Mais on voit autre chose dans le fond. Regardez bien.
Mais un cheval qui se sauve.
À trois.
À trois.
Ouais.
Vous voyez quoi, là ? Le cheval de Troie. Vous voyez, il suffit de regarder, on trouve. Vous avez là un cheval, un grand cheval, aussi grand que les tours de la ville. C'est le cheval de Troie. Nous sommes donc à Troie. Pas en Champagne, hein, mais en Asie mineure. Qu'est-ce qui se passe ? Le cheval de Troie, c'est quoi ?
C'est la ruse.
C'est la ruse. Fabriquée par qui ?
Ulysse.
Ouais. Et Ulysse, il fait partie de qui ?
Les Grecs. Les Grecs.
Contre les Troyens. Donc l'idée, vous la connaissez, hein, c'est de mettre dans le cheval de Troie des armées grecques, de laisser le cheval, que les Troyens fassent pénétrer le cheval dans la ville, comme ça que les Grecs contrôlent la ville. Bien. Ce qui a été imprenable, c'était le seul moyen. Et vous savez que c'est ce qui va se passer, effectivement. Bien. Seulement, voilà, il y a Laocoon.
Un traître. Il n'avait pas confiance dans ce. Il pensait que c'était une ruse, et il a été chassé par les Troyens ou quelque chose comme ça.
Exactement. C'est-à-dire que Laocoon était un Troyen, Et lui, il a essayé de dire aux Troyens, ne faites pas rentrer ce cheval, parce que si vous faites rentrer ce cheval, c'est une ruse, moi je le sens pas, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, pour leur montrer ça, il a même envoyé sur le cheval une sorte de javelot, le cheval a sur les creux, ça montrait donc qu'il y avait un problème, qui n'était pas, c'est pas un vrai cheval, quoi, enfin, il y avait un problème, quoi. Et, mais les croyants pas, vous le croient, etc. Et puis, il y a une divinité, je crois que c'est Athéna, d'ailleurs, qui voulait aider les Grecs, et qui s'est dit, ça au con, ils m'ennuient, vraiment, à vouloir faire en sorte que le cheval n'entende pas. Athéna a trouvé une idée, je crois qu'elle a demandé à Poséidon d'envoyer deux serpents sortis de la mer à Laocoon pour qu'ils zigouillent Laocoon et ses enfants. C'est ce que vous voyez.
Donc c'est dans l'Énéide.
Ouais. Donc vous voyez là le moment où les serpents envoyés par Athéna sont en train d'éliminer, si vous voulez, Laocoon et ses enfants. Laocoon qui a eu la mauvaise idée de dire la vérité. C'est une sorte de Cassandre mâle, si vous voulez. Alors c'est un tableau qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, donc inspiré non pas d'un fait religieux chrétien, mais d'une légende, entre guillemets, gréco-romaine, et c'est un cas qui est assez unique hein, dans l'œuvre de Gréco. Il y a guère d'autres éléments, et vous aviez raison de citer le fameux groupe conservé au Vatican, que voilà, vous connaissez tous. Hein. Et ce groupe-là, dont on aurait pu parler dans l'atelier précédent, d'ailleurs. Hein. Ce groupe-là est certainement un groupe qui a inspiré Gréco. Gréco a certainement, dans ce tableau-là, fait référence au groupe en question.
Oui, puisqu'il passe.
Est-ce qu'il n'y avait pas une copie
à Châlons, place, chez un antiquaire
hein. Oui, oui. Absolument, en fonte. En fonte de fer, en face de la statue de Zéronef, il y a eu longtemps, absolument, un moulage, du Laocoon. Tout à fait. Donc les Chalonnais ont eu Laocoon sous les yeux pendant des décennies, devant l'antiquaire.
Oh, une visitation.
C'est la visitation. Hein. Vous avez deux femmes qui se rencontrent. Hein. C'est donc effectivement la scène de la visitation avec qui ? Sainte
Élisabeth.
Élisabeth. Sainte Élisabeth et
la Vierge.
Et la Vierge hein. La Sainte Élisabeth et la Vierge.
C'est curieux, c'est un tableau, en haut, il y a une arche. C'est...
Oui, parce qu'en fait, le tableau que vous avez là est un élément qui était pris dans un retable, où il y en avait d'autres. Donc, le cadre, si vous voulez, cachait les écoinçons, vous voyez, en haut et en bas d'ailleurs, hein, qui ne sont pas peints, parce que c'était caché. Donc, c'est la visite.
Encore la ville.
Alors, avec une carte, là.
Qu'est-ce que c'est
une carte?
Oui, alors c'est effectivement une présentation de la ville de Tolède. Elle est présentée sous deux aspects d'ailleurs.
En plan.
Voilà, en plan.
Et en relief, en volume.
Et en vue, je crois, une vue cavalière. Un peu comme un cavalier la verrait en arrivant à Tolède. Hein.
Oui, mais il y a un bâtiment mis en valeur au centre.
Oui.
Ça pourrait être un couvent.
Alors, il me semble que c'est un couvent qui servait en même temps d'hôpital, d'hospital, si ma mémoire est bonne. Hein.
Ah oui,
effectivement, que le peintre a voulu mettre, ou qu'on lui a demandé de mettre spécialement en valeur. Je crois d'ailleurs qu'il l'a poussé un peu par rapport à l'endroit où il est, notamment ce que le plan aurait caché autrement. Enfin, il y a un petit truc comme ça. Par parenthèse, le personnage qui est à droite...
Encore le fils.
Eh oui, c'est sans doute José Manuel, hein, le fils du Gréco, qui est de nouveau là, qui lui est venu peintre. Hein. C'est-à-dire que, vous savez que c'est souvent ça dans la peinture ancienne, hein. Les familles sont des familles de peintres, de père en fils. Le Jorge Manuel, le fils de Gréco, est lui-même devenu peintre et a fait des peintures tout à fait dans la lignée de son père. Alors souvent, on les confond.
Et ces personnages qui dansent
au-dessus, là, le ciel.
Oui.
Qu'est-ce que c'est quoi?
C'est une sorte de petite gloire d'ange, si vous voulez. Je crois, mais j'essaie de regarder. Je sais pas vraiment. Je me demande s'ils ne tiennent pas une sorte d'écu de blason de Tolède. Hein.
Et en bas à gauche.
Là, là, vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Pardon, oui, voilà, c'est une figuration de l'abondance. Vous avez une figure, j'ai l'impression que c'est un homme et pas une femme d'ailleurs, hein. Avec une urne, c'est quoi ça? Voilà, ce qu'on appelle une urne fluente, donc qui évoque un fleuve qui passe à Tolède, hein, sans doute. Et puis là, vous voyez une corne d'abondance, avec des tas de choses qui en sortent. C'était en effet l'idée, si vous voulez, de cette ville qui est là, accompagnée. Donc, je suis jamais allé à Tolède, mais je crois qu'il y a en effet un fleuve qui passe en bas de la ville. Et puis donc, une ville dotée de ce fleuve, mais une ville où l'abondance règne, en quelque sorte, d'où cette espèce de figure allégorique au premier plan à gauche.
Mais le ciel, on a l'impression qu'il est usé.
Ben en fait, c'est le ciel de... C'est vraiment de... Ouais. Enfin, c'est... En tout cas, c'est celui de l'inconnu.
Les marrons, les... Enfin, qui
oui,
sont dedans,
ça, c'est...
C'est pas la toile usée.
C'est... Non.
Ah, non.
Non, non.
Et le gros nuage blanc à gauche du plan.
Alors, ça, je crois que c'est pas un nuage, mais un plan d'eau.
Oh.
Ouais.
Il est un peu bizarre.
Très curieux. Très bizarre. Et là, et bien après, à droite, il y a la carte. C'est la carte de Tolède. Autrement dit, Tolède est figurée en plan... Et en vue panoramique. Les deux. Voilà.
Encore un saint ?
Ah, des saints, on va en bouffer, si vous me permettez l'expression.
Mais qu'est-ce qu'il y a à côté ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Un démon ?
Attends, c'est un démon, c'est
un petit diable.
Oui, avec des oreilles.
Mais il n'y a pas qu'un petit diable.
Il y a la chaîne.
Il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Pourquoi faire d'ailleurs ? Pour tenir le diable. Hein. Il y a une chaîne pour tenir le diable.
C'est le péché.
Et qu'est-ce qu'il a dans sa main ?
C'est, bah, c'est moi qui vous pose la question.
Une plume ou un couteau ?
Une plume.
Un couteau.
C'est un couteau ?
Couteau.
C'est un tantois ? Non. C'est pas la tentation.
Non. Pardon ?
Une plume ?
Ah, pas une plume.
Non,
c'est
non,
un couteau. C'est le symbole de quel saint, ça ? Pardon ?
Un miroir ?
Non, c'est vraiment... Ça, oui, on pourrait penser à un miroir vu de profil. C'est un couteau, bel et bien.
Et il va couper le cou du démon ?
Ah, couper le cou du... Oh, il a l'air gentil, ce petit démon, là.
Ah, bon.
Puis il l'a domestiqué, il est tenu par une chaîne. Voilà, je crois qu'il risque plus rien. Hein.
Mais pourquoi ce couteau ? Alors,
pourquoi le couteau ?
Quel est le saint qui a
un saint avec un couteau ? Ça vous dit rien, ça ?
Non.
Ah.
C'est l'épée.
Ça commence par un B. Après, il y a un A. Après, il y a un R. Après, il y a un T. Saint-Barthélemy. Célèbre pour d'autres raisons plus tragiques. Il s'agit de Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy a été écorché vif.
Et dépecé.
Dépecé. On lui a enlevé la peau, hein, avec un couteau bien, bien taillé. Et donc, et oui, c'est épouvantable. Je trouve ça horrible. Et voilà. Et donc, Saint-Barthélemy tient toujours un couteau. Et encore, là, c'est soft. Hein, mais,
et quelquefois, il a sa peau sur le
voilà,
sur l'épaule.
Souvent, voilà. Souvent, Saint-Barthélemy tient sa peau, un peu comme on tient une couverture. Voilà. Mais là, non. Bon. Donc, c'est Saint-Barthélemy. Le tableau est inouï, je trouve. Absolument inouï. Incroyable.
Ce drapé, c'est...
Un tableau sans couleur, ou presque. Noir et blanc. Sidérant. Ah oui, c'est extraordinaire.
Mais c'est curieux, la coiffe.
Oh, mais c'est le grand prêtre, ça.
C'est le grand prêtre.
Et alors, c'est le mariage de la Vierge.
Exactement. C'est le mariage de la Vierge. Hein. Vous avez la Vierge, et puis là,
c'est
voilà, Joseph. Et puis le grand prêtre qui les marie.
Les couleurs.
Incroyable, hein.
Ce jaune et ce
vert. Ah, c'est inouï. C'est stupéfiant.
Oh, les couleurs.
Enfin, si on veut s'interroger sur ce que c'est qu'un peintre, quand on regarde Gréco, je crois qu'on a la réponse. Hein. C'est vraiment un problème de forme et de couleur. Lui, il est imbattable. C'est quand même stupéfiant.
On ne disait pas qu'il était stigmate.
Alors, on en reparlera de ça, effectivement, tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Hein. Voilà. Bah écoutez, vous avez été parfait, vous avez tout trouvé, hein. C'est même pas drôle. Hein. Alors, vu que vous avez tout trouvé, et qu'on arrive à la troisième partie, je voudrais qu'on regarde à nouveau toute une série d'œuvres de Gréco, qu'à la fois on essaie de voir les dates, non pas les dates précises, hein, mais comment ils se situent chronologiquement dans la carrière de l'artiste, hein, voir lesquelles sont plutôt au début, lesquelles sont plutôt à la fin, lesquelles sont vers le milieu, qu'on essaie de dégager une sorte d'évolution chronologique de l'œuvre du Gréco, hein, on va essayer de voir
Je vous rappelle que ce qu'on vient de voir avant, je vous les avais placés dans l'ordre chronologique. Peut-être que ça vous aura donné quelques idées pour la suite. Et puis je voudrais en même temps qu'on essaie de voir à quel moment se placent les œuvres que je vais vous montrer. On regardera d'ailleurs aussi ce qu'elles représentent. Mais quelquefois c'est facile, puis on vient faire un exercice là-dessus. Donc, on devrait y arriver sans problème. Je voudrais qu'on voit un certain nombre des caractéristiques qui sont les leurs. On a commencé à en parler un peu, hein. On a parlé des couleurs, de l'allongement des formes, etc. Je voudrais qu'on réinsiste un peu là-dessus. Bref, qu'on dégage sur ces tableaux, au-delà des sujets qui quelquefois peut-être nous questionneront un peu, vers quel moment de la carrière du peintre ça se situe, les uns par rapport aux autres, hein, et quelles sont les caractéristiques plastiques des œuvres en question. Je vais peut-être vous les montrer, là aussi, une première fois. Hein.
Ouais, ça, c'est au début.
Le jeune homme, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Voilà, il y en a une quatorzaine. Je vous les remontre et après on les revoit et on essaie de voir les caractéristiques, les sujets éventuels, mais ce n'est pas compliqué en général, et puis le moment de la carrière. Là. C'est bon ? Premier tableau. C'est donc pas un tableau au début, au niveau de la date. Sujet en vitesse, peut-être ?
C'est l'arrestation du Christ.
Pardon ?
Le Christ.
Alors, l'arrestation. Le Christ au centre, absolument. C'est, est-ce que c'est l'arrestation du Christ ?
C'est juste avant la crucifixion.
Ah oui.
Ils sont
en train
d'installer, hein, parce que regardez en bas à droite, c'est un type qui est en train de creuser un trou dans une branche de la croix. Hein. Donc c'est juste avant la crucifixion. En espagnol, ça s'appelle el espolio. On traduirait ça comment en français ? Hein ? El espolio. Ça veut dire le cri, enfin ça veut dire le dépouillement, si vous voulez. Hein. C'est le moment où le Christ va être dépouillé de ses vêtements. Parce qu'on ne le crucifie pas avec l'habit rouge qu'on lui avait mis pour se ficher de lui, pour dire qu'il était le roi. Vous savez que la pourpre, c'est la couleur des empereurs. Hein. Et puisqu'il disait, on disait qu'il était le roi du monde pour se ficher de lui, on lui a mis des habits rouges. Hein. Bon. Et on lui a enlevé pour le crucifier. Donc là, on va lui enlever cet habit rouge pour le mettre sur la croix.
Mais il y a un personnage en armure pas tout à fait contemporain.
En tout cas, pas très antique, effectivement. Hein. Le personnage que vous avez là est un personnage qui fait 13-16e siècle, hein, dans une scène qui est très antique, forcément. Hein. Donc, on a une représentation du Christ dépouillé de ses vêtements. Un tableau que vous mettriez donc pas au début.
Non, mais
Est-ce que vous le mettriez à la fin ?
Non.
Au milieu.
Au milieu.
Bien.
Au milieu.
Au milieu. Allons-y. Et au niveau des caractéristiques plastiques de l'œuvre, vous diriez quoi ?
Les couleurs.
Couleurs. Vraiment, les couleurs chez Gréco, c'est pas secondaire. Hein.
La foule, le nombre de
personnes. Oui, une espèce de foule, c'est-à-dire que. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette foule ?
Perspective.
Oui, alors il y a une espèce de perspective, puis c'est très dense, quoi. Hein. C'est saturé, quoi. Hein. Il y a plus de place, quoi. Il y aurait quelqu'un d'autre, on ne sait pas où on le mettrait, quoi. Hein.
C'est les vrais visages aussi.
Il y a une dimension assez réaliste, oui. Vous avez raison. Hein. Quand on voit, par exemple, celui-là. Hein. Mais d'ailleurs, on l'avait remarqué pour le soldat, dont même l'armure est très réaliste. Hein. Il y a effectivement des éléments dans cette scène antique, donc quelque part abstraite, qui ramène à la réalité, effectivement. Hein, notamment des figures comme ça, dont on se rappellera pour la suite des événements dans le XVIIe siècle. Hein. Voilà. Vous voyez ? Donc couleur, saturation, une dimension réaliste. Hein. Qu'est-ce que vous évoqueriez d'autre ? Déjà pas mal. Pardon ? Oui, alors toujours, effectivement, oui. Toujours cette espèce de dimension très allongée, très verticale, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Absolument. Donc il y a une dimension comme ça. Parfait. Bien. Allez, on passe à un autre. Saint Jean l'Évangéliste. Vous savez à quoi on reconnaît.
La coupe avec le serpent.
Voilà. On le reconnaît à...
La coupe avec le serpent.
Voilà.
un calice, ça peut être une coupe effectivement, oui. Avec un
dragon.
Oui, c'est ça, un petit dragon qui sort. Vous me rappelez la raison ?
Il a été empoisonné.
Voilà, hein, Saint Jean a été empoisonné. Enfin, le grand prêtre du temple d'Artémis à Éphèse a essayé de l'empoisonner. Ça n'a pas marché. Il a même ressuscité des gens qui avaient été empoisonnés avant lui, Saint Jean. Donc c'est pour ça qu'il est toujours représenté avec un calice d'où sort un petit dragon qui évoque le poison qui va être utilisé contre lui. Hein. D'accord. Alors là aussi, pareil, est-ce qu'on est au début, est-ce qu'on est au milieu, est-ce qu'on est à la fin ?
Plus tard.
Plutôt à la fin, donc on serait à la fin. Hein. Tardif, ok. Et qu'est-ce que vous diriez là aussi par rapport au style général de... Pardon ? L'allongement de la main.
Toujours.
Hein, extrêmement. Ouais.
Et la façon de poser les couleurs.
Pardon ? Oui, absolument, une espèce de déformation, la tête est toute petite, le corps est une énorme baudruche, enfin, oui, c'est très... Oui, alors, toujours aussi cet allongement aussi, c'est allongé, c'est disproportionné, la main est allongée elle-même.
Ouais. Et la façon de poser les couleurs.
La façon de poser les couleurs, vous la qualifieriez de comment ?
On dirait sommaire, mais...
Ça... Oui, c'est vrai, il y a une... c'est vrai que les couleurs, on dit quelquefois ce monde en peinture, c'est quelquefois les peintres, ils font des couleurs très chiadées, comme ça, c'est très... Là, c'est un peu l'inverse, c'est un côté faussement sommaire, en quelque sorte. Hein. C'est pas voyé, il y a pas... C'est pas vermeil, quoi. Hein. On est là, devant quelque chose qui... Il y a la touche.
Et puis, avec
la
touche aussi.
Alors, c'est aussi une manière d'évoquer une espèce de fluidité du drapé, mais effectivement, il y a une espèce de manière un peu énergique de faire de la peinture.
Hein. Mais alors,
la lourdeur du drapé par rapport au visage qui est complètement...
Ah oui, une espèce de contraste entre un visage un peu spectral, hein, et puis un drapé, qui, on a l'impression qu'il tombe sur son drapé, d'ailleurs. Ouais. Oui, vous disiez, pardon.
Le visage.
Oh, magnifique ce visage.
Couleur marmorée.
Oui, un visage marmoré. Oui, sur la couleur, vous diriez quoi ?
Oui.
Et puis au niveau des couleurs du tableau en général, d'ailleurs.
Très contrasté.
Très
contrasté.
Très contrasté. Et puis d'ailleurs, pas très nombreuses. Hein. Hein, noir, vert, rouge, enfin rose, c'est réglé. Hein. Et blanc. Bon. Voilà, une espèce de d'audace minimaliste des couleurs.
La plupart de ces personnages ont le visage allongé.
Plus ils progressent, plus ils allongent ces personnages.
Donc on aurait, c'est ça. Donc là, on aurait vraiment décidément quelque chose de la fin. Hein. Ok. Du début. Ok. Qu'est-ce que ça représente ?
Un enfant.
Il fait quoi ?
Souffle sur une.
Il souffle sur une plante ? Une torche.
Une braise.
Oui. Un tison, on dira.
Tison, voilà.
Un tison, pour quoi faire ? Pour allumer une bougie. Hein. Tiens, il a une bougie dans une main, un tison de l'autre, et pour allumer la bougie avec le tison, il souffle sur le tison. D'accord ?
Un de ses fils ?
Peut-être. Mais pas sûr, d'autant moins que...
Qu'il n'avait pas encore d'enfant. Quoi.
Pardon ?
Il n'avait peut-être pas encore de fils.
Eh bien, vous avez dit que ça se situait plutôt quand, ça ?
Plutôt
au début. Et qu'est-ce qui vous fait dire que ça se situe plutôt au début ?
C'est plus dessiné.
Plus ?
C'est plus dessiné, c'est moins simplifié.
Oui, mais il aurait pu faire d'abord des choses très relâchées, puis vraiment simplifier, dessiner après. Non. Donc c'est parce que c'est plus dessiné, plus, vous voyez, plutôt plus du départ.
C'est moins caractérisé.
Pardon.
C'est comme une étude, en fait.
Le visage est plus...
Quelque chose qui est plus, entre guillemets, scolaire, d'une certaine manière. Peut-être pas scolaire, non ?
Non, arrondi.
C'est pas un arrondi.
Sur le clair-obscur, en fait.
Alors justement, c'est ça. Donc quelque chose sur le clair-obscur, c'est-à-dire cette opposition clair-foncée, hein, effectivement, qui est très caractéristique, oui.
Mais ça pourrait être un portrait.
Peut-être. Ce côté clair-obscur peut évoquer des choses, d'ailleurs.
Et d'autres peintures ?
Par exemple.
Est-ce qu'il a été inspiré par...
Oui, il y a eu une mode de ces travaux peinture, avec la lumière.
On pense à Jésus, enfant, avec son père.
Oui. Ah, vous pensez au tableau de Georges Latour,
peut-être ? Oui.
Alors, oui, on pourrait penser à ça. Hein. Donc, effectivement, hein, vous avez là noté les idées du clair-obscur, qui est... Alors, Georges Latour, c'est plutôt postérieur. Hein. Mais c'est la même idée, effectivement. Hein. Et ce qui veut dire que cette idée du clair-obscur est une chose qui a été très à la mode, effectivement, au XVIe, XVIIe siècle. Hein. Caravage, on est fin 16e, début du 17e, un contemporain de Gréco. Hein. Donc ça, c'est pas fait d'après Caravage, que Caravage fait ça au même moment, si j'ose dire. Hein. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres gens qui ont fait ça avant. Je sais pas, ça vous dit quelque chose, peut-être ? Alors, les Flamands, ben, Rembrandt sera plutôt après. Hein.
Déjà des Italiens ?
Ben, vous pensez à qui, par exemple ? Pardon ? oui. Ouais, ouais. Je pense à... Je sais pas pourquoi penser à Antonello. Mais moi, je pensais à d'autres gens plutôt. Plus proches chronologiquement de...
Qu'il a pu rencontrer. À Rome, donc.
Ça vous dit rien ? À Rome ? Il a été à Rome, donc.
Oui.
Donc, Gréco est allé à Rome. Donc, voilà un candiote qui est allé à Rome avant d'aller en Espagne. Donc, il est né à Candie, en Crète.
Oui.
Ensuite, il est allé à Rome. Il est allé en Espagne.
Oui.
Il est allé directement à Rome.
Alors, peut-être à Venise avant.
Ah oui, c'est ça.
Et pourquoi peut-être à Venise avant?
Et pas parce que c'était la relation.
C'est que la Crète, elle est vénitienne.
La domination vénitienne, bien sûr.
La Crète est vénitienne à cette époque, largement. Ce qui veut dire que, en fait, Gréco va aller d'abord à Venise avant d'aller à Rome. Et à Venise, il voit des œuvres d'artistes vénitiens. Titien, Tintoret. Et donc, vous avez là, effectivement, quelque chose qui est très proche de ça.
Un peu après.
Alors, l'idée... Alors là, c'est difficile, le sujet.
Et pour une fois, ils ne sont pas trop allongés.
Pas trop allongés. Oh, ben, ils le sont un peu quand même. Hein.
Bon, mais
mais ça pourrait être plus, oui.
Musclés,
oui.
Quand même.
Oui.
Un peu trop plus.
Toujours les couleurs, hein. Toujours
la... La foule.
Ouais. Ouais.
Oh, c'était un couronnement de quelqu'un.
Alors, on est...
Ou une victoire.
Vous avez quand même une idée de, grosso modo, alors peut-être que vous ne savez pas ce que ça représente précisément, mais l'idée de la scène... du type
une victoire.
De... Victoire. Alors, on a effectivement des anges avec des palmes dans les
oui,
cieux. Victoire ou bien...
Le couronnement.
Ou bien...
Couronnement.
Ou couronnement. Peut-être une autre solution encore.
Il
y a des palmes...
Un martyr.
D'ailleurs, regardez bien le tableau.
Celui du milieu, il y a une couronne.
Celui du milieu, il y a une couronne.
Oh.
Ah, lui.
Oui.
Tiens, la couronne du Christ, a priori.
Bon, alors c'est un Saint Georges ou un Saint.
C'est bleu. Enfin, c'est le.
Le en bleu. Ah oui, c'est Saint Georges, on voit très bien. Qu'est-ce qu'il lui faut un là.
Là, on est en train de décapiter des gens. Hein. Donc, il y a un petit problème, là. Donc, c'est plutôt une scène de martyrs. Et s'il y a des palmes, ce sont les palmes des martyrs. En clair, on va martyriser tout le monde. C'est pas évident à reconnaître, mais c'est l'histoire de Saint-Maurice.
Ah oui, c'est sûr.
Hein ? Vous savez que Saint-Maurice était un soldat thébain, donc égyptien, qui, avec son armée, a été entièrement martyrisé. En Suisse, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on a construit
Saint-Maurice
d'Agone, hein, extraordinaire lieu avec un trésor médiéval inouï. Hein. C'est à deux pas d'ici. Enfin, très loin d'ici. Hein. Et voilà donc l'histoire du martyr de Saint-Maurice.
Je crois qu'il était noir, non ?
Oui, mais là, il ne l'est pas. Mais Saint-Maurice était noir, il était thébain. Souvent, d'ailleurs, dans les statues médiévales, il est représenté tout noir. C'est un mort, Saint-Maurice. Voilà. Voilà. Et donc, oui, au niveau des caractéristiques, vous avez dit allongement, mais peut-être moins que d'autres. Couleur, saturation, toujours peut-être la même vibration générale.
La foule.
Deux parties.
L'espace.
Un peu, voilà. Bien. Donc ça, ce serait un tableau du début. Hein. Donc on est devant une icône. Après tout, quand il était en Crète, vous le disiez déjà tout à l'heure, hein, eh bien, Gréco a fait des choses plus traditionnelles.
C'est une icône qui représente une icône.
Absolument. Et qui représente quoi, d'ailleurs ?
Saint-Luc, encore.
probablement.
C'est un peintre.
Pardon.
C'est
pas peintre d'icônes.
Oui. Et alors, il représente effectivement, c'est un icône qui représente un peintre d'icônes.
Oui. Hein.
Et effectivement, le personnage que vous avez là, qui est en train de peindre une icône représentant la Vierge, c'est donc Saint-Luc. Toujours Saint-Luc. Saint-Luc qui peint la Vierge. Hein. Donc vous avez une icône dans une icône, un tableau dans le tableau, c'est Saint-Luc qui peint la Vierge. Hein. Voilà. Et donc, vous mettriez ce tableau au début de la carrière du grec. Okay. Oui, hein, vraiment étonnant. Hein.
C'est toujours Tolède.
C'est une butte Tolède.
Oh là là.
Même le ciel.
Ah oui, c'est... Bon. On a beau connaître ce tableau très célèbre, on est à chaque fois stupéfait. Hein. Ben oui. Qu'est-ce que vous diriez, là, en deux mots, stylistiquement, par rapport à...
C'est angoissant.
Angoissant.
Ah oui, le ciel.
Ce vert. Ah, le ciel.
En tout cas, fort, quoi. Hein. C'est pas un petit paysage de l'école de Barbizon. Hein. Mais bon, on est dans une vision forte. Alors, début, milieu, fin. Plutôt fin. Ok.
Saint-Sébastien,
facile. Début, milieu, fin.
Milieu.
Ok.
Il n'est pas encore trop allongé.
Pas encore trop allongé. Les couleurs. C'est volo. Hein. Donc on est au milieu. Ça y est, étonnant aussi. Hein. Ok.
Ah, c'est
la si. L'hombre con la mano en el pecho. Ouais. L'homme a la main sur la poitrine. Oh. On ne sait pas qui c'est. Pardon ?
Il avait une épée.
Ouais.
Il avait une épée, c'était un noble.
Ah oui, un caballero.
Déjà avec le costume.
Ouais. Alors ça, vous le mettriez quand ? Premier quart. Mais début ou fin du premier quart ? Plutôt fin de la carrière du peintre ?
Ah non.
Est-ce que c'est facile d'ailleurs de trouver, enfin de dire là ?
Non.
Pourquoi c'est un peu compliqué ?
Parce que si c'est un portrait,
c'est un portrait.
Et bien obligé de respecter.
Eh oui. Et puis il y a autre chose aussi. Donc c'est un portrait. On est bien obligé de respecter les traits du personnage.
Oui, oui, comme. Il ressemble aux autres.
Il ressemble aux autres. Et en particulier à propos de quoi ?
Dans la série de tableaux sur ça.
Visage et puis
le costume.
Le costume, c'est toujours noir et blanc. Il n'y a quand même pas beaucoup de... Déjà, on peut pas... Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il est forcément noir avec une fraise blanche, quoi. Donc, oui, tu flottes dentelle. Bon. C'est quand même pas... On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de choix, quoi. Hein. Ok.
À la fin.
Alors ça, fin. Une idée de... Après avoir... Je crois qu'ils éteignent au moment du chauffage. Alors, bon.
Il y a beaucoup de gens dénudés. Là.
Beaucoup de gens dénudés. On a une idée du thème, peut-être.
Celle qui a implore.
Difficile. Hein.
Celle qui implore. Oui,
ouais, il y a un personnage qui implore au premier plan.
Il implore.
C'est une femme. C'est
une femme.
Sodome et
Gomorre. Ah, ça pourrait faire penser à Sodome et Gomorre, les villes pécheresses. Ouais, mais c'est pas ça.
Quelqu'un avec un bébé.
Un bébé, oui.
Un bébé.
En haut à droite.
En haut à droite.
Oui, c'est des petits angelots.
C'est une âme.
Oui, qui... Voilà.
Et il y en a un qui n'a pas la même couleur que les autres.
Un personnage.
L'homme, oui.
L'homme. L'homme. Très réaliste.
Oui, très, effectivement. Le massacre des innocents ?
Oh non.
Ils sont un petit peu âgés pour le massacre des innocents. Bon, il y a des innocents âgés. Hein. Il y a des grands innocents. Hein. Et là, ils n'ont pas l'air très innocents.
Mais ils sont aussi... Ce contraste des couleurs des corps.
Ah oui, vous remarquez quand même, c'est un. On a vu ça tout à l'heure dans un tableau. Vous vous rappelez les noces de la Vierge ? Hein, avec ces couleurs comme ça, côte à côte, là, vous avez une tache de bleu, de rouge, de jaune, de vert. C'est étonnant, ça. Hein.
Cet énorme personnage à gauche.
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça ? Ce personnage qui est là au premier plan, qui a l'air d'avoir une importance particulière, hein, et qui a l'air d'haranguer le ciel. Il faut dire que ce tableau avait une partie supérieure qui a été coupée et qui n'existe plus. Alors ça n'arrange pas les choses. Ah oui, mais là j'y peux rien.
Intercesseur.
Oui, une sorte d'intercesseur, quelqu'un qui prend le ciel à témoin ou qui voit des choses dans le ciel peut-être.
Et celui qui est jugé.
Peut-être qu'il les voit, qu'il les aperçoit, peut-être que...
Ces draperies bizarres par derrière les personnages...
Oui, alors il y a évidemment des draperies, ils ont l'air de...
D'isoler la scène.
Oui, ils ont... alors il y a des draperies derrière, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces draperies, en fait ? Voilà, ils en sortent, ils se... Là aussi, c'est un espoir, ils se dépouillent, ils se déshabillent.
C'est une
jugement dernier, non.
C'est plus compliqué que ça.
C'est des morts.
En fait, je vais vous le dire parce que c'est vraiment c'est compliqué. C'est une vision de l'Apocalypse de saint Jean. On sait que saint Jean, l'évangéliste, s'est retiré à Patmos. Là, il a écrit l'Apocalypse. Toute une série de visions, un texte magnifique d'ailleurs, extrêmement poétique aussi d'ailleurs, hein, superbe, et qui est notamment rythmé avec l'ouverture des sceaux. Hein. Saint Jean voit dans le ciel un livre avec les sept sceaux. Et avec un agneau, qui est évidemment le Christ, et la Bible va s'ouvrir sceau par sceau. Ça, c'est l'ouverture du septième sceau. Et c'est une histoire un peu compliquée qui raconte que les mortels, si vous voulez, quittent leurs habits et revêtent des habits blancs. Et des anges qui viennent leur amener. Bon, voilà. Donc c'est l'ouverture du septième sceau. Hein. Une sorte de manière d'enlever ses oripeaux sur Terre pour entrer une sorte de pureté. Enfin, comme ça qu'on peut peut-être... Mais, c'est résumer un texte sublimement compliqué d'une manière un peu triviale. Hein. Enfin, c'est en gros l'idée. Voilà. Donc, ça représente l'ouverture du 7e sceau. On met ça quand dans la carrière d'artiste ?
Oui,
à la fin. Oui, il n'y a pas grand-chose au début ni au milieu. Avec vous, hein.
Mais celui-là, plus au milieu.
Beaucoup travaillé à la fin. Et là
C'est ça,
allez au milieu.
Saint-Paul quand il est terrassé.
Ah, Saint-Paul sur le chemin de Damas.
Ouais.
C'est évidemment, on a là un personnage qui est retourné.
Il
hein.
manque le cheval.
Mais il n'y a pas de cheval.
Il n'y a pas trop de cheval.
Mais c'est la résurrection.
C'est la résurrection. C'est tout simplement la résurrection. Vous avez là le Christ qui sort du tombeau. Et là, autour, c'est quoi ?
Mais les soldats.
Ben les soldats. Hein. Mais effectivement, vous avez raison de remarquer ce soldat qui est au premier plan, cul par-dessus tête, hein, et qui, voilà. On... Alors justement, stylistiquement parlant, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette...
Étonnant,
là. Alors, il y a des raccourcis étonnants, notamment le personnage du premier plan. Hein. Vous avez remarqué aussi le format de la peinture, quelque chose de complètement étroit, tout en hauteur. Alors, je sais bien qu'il fait des personnages allongés, mais enfin là, il se donne les moyens pour les allonger davantage. Hein.
Il y a énormément de mouvements.
Énormément de mouvements. Énormément de mouvements. Vous avez des tas de personnages dans tous les sens, ça bouge, il y en a même un qui est retourné à l'envers, donc vous le remarquez. Hein. Oui, aussi, oui. Oui.
Et le Christ est très blanc, mais pourquoi il tient un drapeau oriflamme ?
Alors ça, ça arrive souvent. Hein. Il tient une sorte de bannière, comme ça, en sortant du tombeau, une bannière blanche. Des fois, il y a une croix rouge dessus.
Le personnage en bleu...
Ben oui, il y a toujours ce travail sur les couleurs, une espèce de grosse tache colorée très, très vive. Hein. Donc effectivement, mouvement, allongement, saturation. Il tient personne d'autre, là. C'est bourré. Hein. Couleur très forte, vive, aussi une manière, cette espèce de position très curieuse, truculente, pourrait-on dire.
Oui.
Et donc on est au milieu.
Ah oui.
On est au milieu.
Avant ça.
Là c'est avant ?
Ah oui.
Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est avant ?
Plus
léché.
Oui.
On n'est pas dans les déformations postérieures.
Les constructions, le bâtiment.
Présence des bâtiments, oui, qu'on n'a pas trop dans les autres œuvres, hein, où finalement il n'y a pas de décor dans les autres œuvres.
Hein. Ça évoque plus l'Italie.
Ça évoque plus l'Italie. Là aussi, si vous dites ça évoque plus l'Italie, vous pensez à des peintres italiens qui.
Ah, l'architecture.
Véronèse,
oui.
Par exemple. Oui. Toujours, Véronèse, il est d'où d'ailleurs ?
Vérone.
Oui, mais il s'est vraiment illustré où ? Venise. Hein. Véronèse, vraiment, son lieu, il est de Vérone, effectivement, son lieu, c'est Venise. Hein. Donc, ça nous rappelle le séjour vénitien de notre gréco-national. Hein. Donc, on est plutôt au départ. Oui, qu'est-ce qui se passe,
le thème ?
Oui. Voilà, c'est en fait le Christ qui guérit l'aveugle. Hein. Très bien. À la fin, bon. Et ça représente quoi ?
Le Christ. Bénissant.
Bénissant.
Avec le monde sous sa main.
Avec le monde, l'orbe. Et vous auriez à dire quoi ? Alors, couleur, monochromie, etc. Contraste.
Oui. C'est plus rabattu, c'est moins vif.
Oui, c'est vrai. C'est plus contenu. Ouais. Pardon, mauvaise mine, oui, blanc, blancheur, spectral, hein, toujours. Ils sont toujours très blancs, très anémiés. Hein. Toujours, sont toujours tout blancs. Pardon, j'ai entendu un truc intéressant là. Enfin, tout est intéressant, mais. Comme une icône. Il y a un côté icône.
Avec le geste.
Oui, qu'est-ce qu'il y a d'icône ? Le geste, mais quoi aussi ? Parce que je vous rappelle qu'on vient de voir. Pardon ? Oui. Et puis, peut-être encore autre chose. Voilà, le côté figé, la main. C'est-à-dire que, je vous rappelle, on vient de voir un tableau, vous avez des personnages dans tous les sens, il y en a même qui sont tournés, etc. Là, vous avez un type, c'est l'inverse. Hein. Avant, on avait des personnages dans tous les sens. Hein. Là, il est frontalement, de face, comme ça. C'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'on est là, devant, effectivement, quelque chose qui rappelle tout à fait la peinture des icônes. C'est-à-dire une peinture extrêmement normée, hein, qui est tout à fait autre chose que ce qu'on a pu voir habituellement chez Gréco, qui est très figé, etc. Ce qui est intéressant chez Gréco, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas oublié, quelque part. Hein.
Il revient.
Ouais, il revient. Gréco, il a commencé, on l'a vu, avec des icônes tout à l'heure. Hein. Quand il était à Candie, il peignait des icônes. Hein. Et bien, quelques décennies après, ben, ce peintre, il n'a pas forcément perdu son ADN, si vous voulez. Hein. Et donc, il continue à travailler, parfois, avec des réminiscences, pourrait-on dire, hein, de cette manière très normée. La peinture d'icône est très, appartient à des codes très, très précis. On ne fait pas une icône, pas n'importe quoi, n'importe comment. Ben, quelquefois, il retrouve, il renoue avec ça. Milieu. Au milieu. Et ça représente quoi ?
Oui,
ouais. Voilà. C'est ça. C'est le Christ qui chasse les marchands du temple. Hein. Il est au milieu, furieux. C'est la grande colère du Christ, ça. Et il vient chasser les marchands du temple. Hein. Donc, ces milieux. Hein. On a un décor, là, pour une fois.
Oui.
Non, c'est pas vrai quand. Hein.
C'est le deuxième.
Ouais. Là, vraiment, bon.
Ben oui, mais le temps, si c'est le
temple. Oui, si c'est le temple, pour bien montrer le temple quand même. Hein. Autrement, c'est pas du jeu.
Hein. Quelle est cette statue à gauche en haut ?
Ben, c'est une statue.
Parce que, oui, mais normalement.
Ben, il n'y en a pas, mais. Ben, là, il en met une. Mais oui, très. Hein.
Une
ah, très élongée. Alors, la statue en haut à gauche. Hein.
Le bras qui sort. Ouais. Le bras
gauche,
il est.
Oui, oui. Ah oui, oui, c'est déformé, quoi. Alors, oui, quelqu'un disait tout à l'heure que. Vous pouvez peut-être répéter ça, d'ailleurs, que ces déformations, etc., on les a volontiers impliquées à quoi ?
À son astigmatisme.
Voilà, à son astigmatisme. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ah ben oui, il déforme tout, parce que de toute façon, il a un problème visuel, et donc, il déforme tout. Hein. Et en fait, alors, bon, tout le monde a des vues différentes, hein, je ne suis pas sûr qu'aucun dans cette salle, on ait exactement la même vue. Donc, Gréco avait sans doute pas la même vue, oui, moi, bien. Vous voyez peut-être plus ou moins bien, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a des tableaux, je pense par exemple au Saint-Martin de tout à l'heure, hein, où on voit un Saint-Martin très allongé, surtout le pauvre à côté de lui est très très long. Par contre, le cheval, il est impeccable de proportion, si vous voulez. Donc, en fait, cette idée du défaut visuel de ça ne marche pas du tout. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un peintre fait des... c'est pas parce que Picasso a fait ce qu'il a fait qu'il voyait mal. Pas du tout, c'est pareil. Hein. Et on va dire c'est la même chose avec les peintres qui ont fait les peintures de Lascaux. Les mecs de Lascaux, si vous voulez, c'est pas des gens qui voyaient les taureaux. Ou... Voilà. Donc cette idée que les peintres qui font des choses spéciales, c'est parce qu'ils voient mal, c'est vraiment tout à fait faux. Hein. C'est vraiment une manière de réduire tout à fait le talent du peintre. C'est pas parce qu'on voit mal que. Voilà. Donc cette idée de Gréco que quelques-uns avaient pu avancer a été absolument abandonnée.
Et puis lui, alors, dernier.
Alors, c'est un portrait, mais plus tardif.
Toujours un portrait avec la variation sur le noir et le blanc, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais plus tardif. Et pourquoi plus tardif?
Dans sa manière de peindre.
Sa manière de peindre. Hein. Donc, sa manière de peindre fait qu'on vient bien. Alors maintenant, on va voir si vous avez raison. Parce que maintenant, c'est la correction des copies. Alors, le premier tableau, vous aviez raison. C'est effectivement celui-là. Je tiens à dire qu'il est attribué à... À vrai dire, on connaît plusieurs icônes qui sont données à Gréco. On est sûr pour aucune, mais on le pense, tout simplement parce qu'elles sont généralement signées Domenikos. Domenikos, bon, il y en a beaucoup. Or, quelques-unes, notamment celles-là, sont attribuées à Gréco. Pour celle-là et celle que je vais vous montrer maintenant, c'est plus vraisemblable que pour d'autres. Mais ce n'est pas certain à 100%. Ça, c'est sans doute une autre icône du Gréco. Ça aussi, vraisemblablement, l'avis n'est pas partagé par tout le monde, mais ce serait une peinture un peu plus déjà libérée des canons de l'icône. Enfin, on a quand même le fond d'or, etc. Une des œuvres, justement, encore très icône, si j'ose dire, mais déjà un peu autre chose, et qui est assez vraisemblablement de lui, même si tout ça, encore une fois, n'est pas accepté par tout le monde, c'est ce petit polyptyque qui est à Modène, et qui serait donc d'un Gréco très tôt, qui est peut-être encore à Candy, ou déjà au début de son parcours en Italie. Alors ça, c'était au début, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous aviez dit aussi que c'est une œuvre, la guérison de l'aveugle, qui vous faisait penser beaucoup à Venise en particulier. Vous aviez cité Véronèse. Voilà, et c'est effectivement un tableau fait sans doute à Venise, au moment où Gréco est à Venise après son départ de Crète. Alors, il a fait d'autres tableaux à cette période. Par exemple, voilà encore un épisode représentant Jésus chassant les marchands du temple, traité de manière très vénitienne aussi. Oui, absolument. Alors, ça rappelle par le sujet le tableau que je viens de vous montrer, sur le tableau que je viens de vous montrer, il est beaucoup plus tardif, on va le retrouver tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voyez en bas à droite?
Ah,
ça pourrait être des donateurs.
Ça
pourrait être des donateurs.
C'est les peintres.
Ça n'est pas les donateurs, ce sont des peintres. Lesquels? Est-ce que vous les reconnaissez?
Quatre peintres italiens.
Titien.
Titien, oui.
Ça, c'est Titien. Ça, vous le reconnaissez?
Non.
Oh, si. Il più famoso. Le plus célèbre.
Non,
un peintre plutôt actif à Rome, lui. Non.
Non.
La chapelle Sixtine. Michel-Ange. Vous avez là Michel-Ange.
Oui, mais il est âgé.
Et là, Raphaël. Alors, ça, l'autre, c'est Clovio, qui est un miniaturiste que Gréco a rencontré en Italie et qui lui a ouvert des portes. Là. Donc lui est beaucoup moins célèbre. Mais vous avez donc là, au premier plan, Titien, Michel-Ange, Raphaël. Qu'est-ce que ça vous dit tout à l'heure?
L'importance de ces peintres.
Voilà. Si les amis là, c'est que Gréco, quelque part, trouvait que ces peintres étaient très importants pour lui. Ça nous rappelle peut-être une petite réflexion qui a été faite tout à l'heure. C'est vous qui l'aviez faite. À propos d'un mot que vous avez utilisé. Pardon ?
Baroque et maniérisme.
Alors, vous avez parlé de maniérisme. C'est quoi le maniérisme ? C'est maniérisme. Pardon ? Alors, voilà, il y a deux exceptions à ça. Maniérisme, ça veut dire faire des gestes très sophistiqués. On dira d'un opéra où les acteurs font que c'est très maniériste ou maniéré. Bon. Ça peut être une première exception.
On a parlé de
la
manière. Mais, voilà, l'allongement. Alors. Là, l'argent passe un peu vers autre chose. Parce qu'effectivement, maniérisme, en histoire de l'art, ne veut pas dire maniéré, comme on pourrait le dire dans le langage courant, ou par exemple dans le langage évoquant une mise en scène, que sais-je encore. Maniérisme, ça veut dire effectivement à la manière de. En fait, le maniérisme en peinture, en Occident, ça correspond à des artistes qui vont travailler à la manière des peintres de la fin du 15e et du début du 16e siècle.
Donc,
de ceux-là. Les maniéristes, sont les peintres qui se réclament de la brochette que sont les Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, hein, qui n'est pas là, mais qui pourrait y être, hein, Titien, etc. Les maniéristes, c'est ça. C'est des gens qui travaillent après cette espèce de série, ce panthéon de peintres italiens, à la manière de... Hein, à la manière. C'est pour ça qu'on les appelle des maniéristes. Hein. C'est pour ça qu'on peut dire que Gréco est un maniériste, parce qu'il travaille à la manière de... Et justement, chez les maniéristes, on retrouve beaucoup des qualités qu'on a vues chez Gréco, notamment l'allongement des formes, notamment ce mouvement qu'on a remarqué, cette manière aussi de mettre des gens parfois cul par-dessus tête. Ça, c'est complètement maniériste. Hein. Si vous voulez, ça a été inventé par ces artistes-là et amplifié par les artistes maniéristes qui les suivent. D'accord ?
C'est quoi ces deux bébés là, qui ont l'air malades ?
À droite, ben, c'est deux bébés qui ont l'air malades. Non, ils ont l'air un peu... Enfin, celui qui est par terre, oui, il a l'air un peu... Mais ça va. Oui, peut-être. Alors, ça, vous aviez dit aussi que vous le mettiez juste après. Et vous aviez, bah vous aviez raison, vous l'aviez mis au départ, vous vous rappelez.
Oui.
Et c'est effectivement un tableau, vous aviez raison de mettre au départ, qui représente un jeune garçon souvent sur un tison, hein, et qui est fait à la manière de certains tableaux vénitiens du temps. Vous savez, Tintoret ou Titien ont fait des tableaux comme ça, hein, très clair-obscur. Vous m'avez dit ce clair-obscur tout à l'heure. Hein, et des scènes un peu quotidiennes. Hein, ben, c'est vraiment quelque chose que Gréco a pu voir à Venise. Il a fait un autre tableau un peu du même genre. Vous retrouvez le même personnage, qui est assez marrant, qu'on appelle la fable. On ne sait pas ce que ça représente, d'ailleurs. Hein. Mais il y a au centre le même jeune garçon, à droite un autre qui a l'air d'un grand bonnet qui rigole. Et puis à gauche, il y a un singe. Donc ça doit être sans doute un proverbe ou une fable, mais on n'en sait pas plus. C'est assez rigolo, ça. Après, vous aviez raison. Je tiens à dire que vous avez eu raison pour tout. Alors vous direz, il y avait début, milieu et fin. Hein. OK, enfin quand même. Hein. Voilà, donc un Saint-Sébastien, pas de problème. On est déjà dans l'allongement, mais pas dans l'allongement qu'on verra plus tard. Vous l'aviez situé au départ, les spolios, vous aviez raison. Okay. Ça, vous aviez aussi raison de le mettre plutôt au milieu. Alors, il en a fait, Gréco, des quantités. Hein. Je vous en montre une petite brochette.
Oh, c'est vraiment des portraits.
Et puis après, on tombe au milieu toujours, avec cette toile-là. Et vous avez raison quand même de dire que, grosso modo, hein, on va avec lui de plus en plus vers la déformation, vers l'allongement, vers un maniérisme de plus en plus outré, dans les formes de personnages, mais aussi dans les couleurs. Déjà là, ça y va, hein, mais ça va être de plus en plus outré, si vous voulez, hein, de plus en plus radical. Hein. Donc ça, c'est le fameux martyr de Saint-Maurice et de la Légion thébaine. Et dans la même foulée, on peut mettre la fameuse résurrection. Hein. Ou bien on pourrait mettre ce tableau-là que je ne vous ai pas montré, mais la Pente Haute. Hein. Même genre de choses, on est dans la même période. Donc là, il a quitté l'Italie, déjà depuis Saint-Sébastien d'ailleurs. Hein. Il est maintenant à Tolède. Il va rester à Tolède tout le reste de sa vie, hein, quasiment. Et voilà. Et donc à Tolède, il est, vous le savez, le grand peintre de Tolède.
Est-ce qu'il y a des tableaux où le Saint-Esprit et le Christ sont représentés ensemble, la flamme?
Peut-être.
J'ai jamais vu.
C'est des donateurs.
Ben, moi, je savais. On va voir. Peut-être. Voilà, je vous montrais ça, parce que c'est un des rares tableaux de Gréco au Louvre. Hein. Alors, autant connaître déjà ce qu'on a chez soi, si j'ose dire. Voilà, de cette période-là. Hein. Et donc, ce fameux tableau-là, dont on a parlé tout à l'heure, hein, le Christ bénissant. Voilà un autre tableau qui est, vous voyez, d'un Gréco déjà mûr, mais encore très icône.
Oui.
Vous voyez, le fond doré, etc. Vous voyez qu'il y a des moments où il y a comme ça, il y a l'icône qui revient un peu à la surface avec lui. Hein. La vue de Séville, plutôt vers la fin, on est OK. Ça, à l'ouverture du cinquième saut, vers la fin aussi. Le qui cherchent les marchands du temple. On en a parlé, donc c'est le même sujet que tout à l'heure, mais à la fin de la vie et pas au départ. Oui. Je pense que vous mesurez bien l'évolution. Hein. Mm-hmm. Effectivement, ce tableau-là qui est un portrait de la fin, c'est toujours la même variation sur un même thème, mais à la fin. Et tout à fait à la fin des fins, c'est l'extraordinaire Saint-Jean. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer les autres tableaux de la même série. Voilà un très beau Saint-Matthieu, n'est-ce pas, voilà. Mais vous avez tous les apôtres, c'est ce qu'on appelle un apostolat, donc. Hein. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. C'est-à-dire une série d'apôtres, je vous en demande 10. Mais voyez, à la fin de la vie, comment on est dans une espèce de jusqu'au boutisme incroyable, quand même.
De couleurs.
C'est quand même un peintre... Enfin, on a beau le connaître, je trouve que c'est inouï. Pour terminer, vous avez bien encore 5 petites minutes. Je vais vous montrer quelques tableaux. Et là c'est la partie Chaustrap, si j'ose dire, où j'ai mélangé des œuvres de Gréco et des œuvres de pas Gréco. Donc là, va voir, vous disiez ce qui est Gréco et pas Gréco. Et les œuvres qui ne sont pas celles de Gréco sont des œuvres d'autres artistes espagnols du XVIe siècle. Donc voilà qui nous permettra de voir quand même que Gréco n'est pas tout seul en Espagne au XVIe siècle. Il y a d'autres artistes. À nous de voir ce qui est Gréco et pas Gréco. Alors là,
c'est pas Gréco.
Non. Pas Gréco ?
Non. Si. Ah. Non, non.
Non, il est à l'horizontale.
Non, non, c'est elle. Ah non, pas avec
lui. Ça représente quoi d'ailleurs ?
Judith. Ah non, vrai, mais c'est non, pas non. Ça. C'est la tête de Saint-Jean-Baptiste.
Voilà, c'est Salomé, la tête de Saint-Jean-Baptiste. Hein ? Donc si vous voulez, c'est la tête, donc qu'elle soit horizontale, c'est normal. Hein.
Elle
est détachée
du reste.
Ben voilà.
Sur un plat.
Donc pas Gréco ?
Non.
Non.
Ouais, je sens pas pas unanime. Hein. Donc pour certains, je sens quand même un petit tiers de Gréco là. Hein.
Un petit tiers à gauche, non.
Ah ben oui, mais non. C'est tout l'un ou tout l'autre.
Il travaillait en atelier.
Il avait des de plus en plus, qu'il avait de plus en plus commandes. Il a travaillé notamment avec son fameux Jorge Manuel. Oui. Donc, je sens qu'il y a un poids pour non-gréco, mais quand même, une grosse minorité.
La main est grande.
Quand même. La main est grande. Hein. Ah, tête gréco. Hein. Donc, tête bain, tête pas. Hein. C'est plutôt peut-être pas, mais peut-être un peu quand même.
Quand même.
Bon.
Et puis, vous ne vous donnez pas la réponse.
Ah, ça va venir après.
Sainte-Catherine.
Je vous laisse mijoter.
Sainte-Catherine.
Alors là.
Sainte-Catherine.
Sainte-Catherine.
D'Alexandrie.
Non, pas Gréco, ça. Non, ça ne peut pas être Gréco, ça.
Non, elle est courte sur pattes.
Elle est courte sur pattes, c'est pas Gréco, ça. On est d'accord, hein. Allez, c'est pas Gréco. Ah, ben là, c'est Gréco, quoi. Bon, là, on est d'accord. Là, c'est du Gréco chez Gréco.
Oui, ça, c'est sûr.
Ah.
Non.
Non.
Non. Non. Non. Pas Gréco.
C'est affreux,
non.
Oui.
Ah là, c'est plus douteux.
Plutôt oui,
mais...
Plutôt oui.
Ah, peut-être, hein. Un petit gréco du départ, peut-être. Hein? Oui, pas encore saturé, le moment où il est encore sale, un peu italien. Un petit gréco de derrière les fagots du début, là. Ça vous va, ça ?
Oui.
On va dire oui.
Non.
Oh non.
Non.
Bah non, pas possible.
Non, c'est pas
oui.
Ah bah oui.
Bon, on retrouve les mêmes.
Mais le Saint-Esprit est là.
Vous vouliez le Christ, Dieu le Père et le Saint-Esprit, et voilà.
Ah mais Dieu le Père est...
Alors de Gréco, pas de Gréco ?
Oui.
De Gréco.
Mais Dieu
le
Père ?
Oui.
Oui.
Les couleurs sont de Gréco.
Les couleurs sont de Gréco. Ah, pas le reste alors.
Ah si.
Si, il y a le même sol tout à l'heure.
Oui, oui, si.
Un piège ? Alors, Gréco ?
Non.
Non.
Pas Gréco ?
Non.
Oh. Ah bah oui, Gréco.
Oui.
Allongement, couleur.
Non.
Non.
Ah non.
Non. Italien.
Oui.
Oui. La même auréole que tout à l'heure.
Oui, que le Christ.
Gréco.
Non.
Non, non, pas du tout.
Non. Non.
Pas Gréco.
On va plus. Le genre de ce gigolo.
Oui.
Ah oui.
Oui, oui,
oui. Oui. Gréco.
Oui.
Non.
Non. Bah non.
Je pense qu'on va avoir des surprises.
Ça, c'est pas lui, ça.
Oh, il y a un air flamand là-dedans.
Non.
Non, bah non.
Il est... non.
On y va, allez, accrochez-vous. Hein. C'est bientôt fini, le martyr. Allez, c'était Gréco. Car je vous montre déjà les Grécos. Donc ça, vous aviez raison, c'était Gréco. J'ai bien essayé de... Non, vous avez raison, c'est Gréco. Ça, c'est Gréco aussi. En fait, vous avez presque tout juste, je dois dire. À mon grand dame, hein. J'ai bien essayé de vous faire chuter, mais je n'ai pas réussi.
Semer le doute.
Gréco.
Oui, oui, c'était évident.
Gréco. Là, vous avez été comme un seul homme. Hein. Gréco, bien sûr, là aussi, il n'y avait aucun doute. Voilà, c'était les seuls.
Ciel.
Ce qui veut dire que ça, vous l'avez dit, c'est pas Gréco, vous avez raison, hein. C'est un peintre qui s'appelle Pablo de San Leocadio, hein. C'est un peintre important assez tôt, hein. Un peintre à cheval sur le 15e et le 16e. Donc là, on est très tôt, hein. Vraiment, c'est l'équivalent, si vous voulez, de Van Eyck, on en parlait tout à l'heure, enfin, des peintres flamands, Van der Velde, enfin, des peintres flamands du haut de l'Europe, si vous voulez. Voilà.
On ne peut même pas dire que c'est à la manière de Gréco.
Oui, non, non. Non,
même pas, puisque c'est avant.
C'est différent.
Ah, ben c'est complètement différent. Sauf qu'on a vu que Gréco avait plusieurs manières.
Oui, mais.
Hein?
Oui, mais non.
Alors, ça non plus, c'est un artiste qui s'appelle Juan de Borgogne. Hein. Alors, il n'y a pas de tilde sur mon ordinateur. Hein. Le tilde, vous savez, c'est un petit vague qu'on met sur les N. Hein. Donc, je n'ai pas pu mettre de tilde sur le N. Mais ce Juan de Borgogne venait sans doute de Bourgogne, c'est-à-dire d'ici.
De Bourgogne.
Hein. Il s'est installé en, ouais, il s'est installé en Espagne et il a fait notamment les peintures murales de la salle capitulaire de la cathédrale de Tolède. Donc là aussi, c'est un artiste tôt, donc rien à voir avec Gréco, effectivement. Ça, vous l'avez dit non plus. Hein. Fernando Llanes de Almedina, donc rien non plus d'avoir, une belle Sainte-Catherine. On est un peu plus tard, au XVIe siècle. Hein. Et ça, là, vous avez hésité. Hein. Là, vous étiez assez Gréco. Hein. Eh ben non. C'est de Pedro Compagna, qui est en fait un artiste du Nord, Peter de Compagnir, qui s'est installé en Espagne. Hein. Il s'est passé pour l'Espagne, la même chose qu'en Italie, beaucoup d'artistes du Nord se sont installés en Espagne. Hein. Et là aussi, mais là, vous avez été héroïque. Vous avez dit, je n'ai pas Gréco. Et vous aviez raison. C'est de Pedro Machuca. Alors là, vous êtes tombé dans le panneau, et je ne suis pas un peu fier. Hein. Enfin, ça, c'est de Luis de Morales.
Il a copié, il a
imité. Oui, je ne sais pas si on peut dire ça. Hein. C'est assez tôt, comme vous le voyez quand même. Hein. Luis de Morales est un peintre comme ça qui a fait que des choses de genre, très acérées comme ça. Hein. C'est un peu du Gréco avant Gréco, quelque part. Hein. Donc vous voyez qu'il y avait quand même un petit terrain, hein, d'une certaine manière. Pardon ?
Ils sont connus, non ?
À ma connaissance, non. Mais voilà, on est donc dans un répertoire qui peut vraiment faire penser à Gréco. Mais encore une fois, il est antérieur quand même. Hein. Mais Morales est sans doute avec Gréco un des très grands noms de la peinture en Espagne au XVIe siècle. Hein. Alors là, pas Gréco du tout. C'est de Sanchez Coelho, qui est un artiste de cour, un portraitiste. Vous avez eu raison de dire non, c'est pas du tout. Et en effet, il y a là quand même un travail qui est, pour faire rire, moins inventif que celui Gréco. Hein. Mais Sanchez Coelho est vraiment le portraitiste officiel de la cour en Espagne au XVIe siècle. Navarrete, évidemment, on est très loin. Pas du tout, du tout Gréco. Vous aviez raison. Et là non plus, Juan de Juanes. Oui, oh, c'est un type de représentation assez habituel qui vient de la scène de Léonard de Vinci. Hein. Voilà un maniériste encore. Hein. Ça, c'est un aimé. Tous ces artistes sont peu ou prou des maniéristes. Plus ou moins talentueux et forcés.
Toujours
mais...
Judas à gauche.
Et toujours Judas à gauche.
Salomé.
Et toujours roux. Et Salomé de Alonso Berruguete. Hein. Là aussi, vous avez un peu hésité, mais ça n'est pas... Et ça, non plus, ça n'est pas Gréco. Et là, c'est le deuxième, vous êtes trompé. Hein. Voilà. Eugenio Cajes, qui est un... Mais c'est vrai que là... Alors, c'est un artiste plus tardif, lui, hein, que le Gréco. Mais alors, lui, peut-être quelqu'un, effectivement, qui a un peu regardé ce côté-là. Alors, il est madrilène. Hein. Mais voilà, on est quand même dans quelque chose qui, là aussi, fait partie de ce maniérisme de déformation, d'élongation, avec quand même un travail sur la couleur qui est assez proche de Gréco. Voilà, en tout cas, ça vous permettait d'avoir une petite idée de la peinture en Espagne, en dehors de Gréco. Quand on parle de l'Espagne au XVIe siècle, on pense Gréco, il n'est pas le seul. Carrés, par exemple, ou surtout Morales, dont je vous ai montré tout à l'heure, sont vraiment des artistes importants de l'époque. Bravo. Et à la prochaine.